Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry.
Oui, les vraies voix Sud Radio qui sont fort aises de retrouver enfin le temps estival sur à peu près 99,9% du territoire. Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 19h avec Philippe Bilger. Bonsoir à vous, mon cher
Bonsoir
Philippe.
Bonsoir Jean-Marie et bonheur de vous retrouver avec votre dictature soyeuse.
Merci. Écoutez, c'est le plus beau compliment que vous pouviez me faire. Magistrat honoraire Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. On profite de votre présence, si j'ose dire, puisque vous avez écouté la météo Sud Radio. Vous allez courir à la plage dans quelques jours.
Pas à la plage, non. Mon cher Jean-Marie, mais à Turin.
Ouais, écoutez, enfin, c'est le Sud, on est sur Sud Radio.
Et puis après, bon.
On verra bien où vous mènera justement cet été. Maxime Thiébaud est avec nous, bonsoir à vous.
Bonsoir,
Maxime.
Bonsoir Jean-Marie.
Docteur en droit, il en faut en ce moment avec l'actualité que nous commentons. Auteur du livre « Gilets jaunes, vers une démocratie directe », c'est publié chez VA Presse. Bonsoir à vous, vous nous rejoignez jusqu'à 19h. Également, tiens, une nouvelle vraie voix, alors c'est pas nouvelle voix de Sud Radio, c'est une nouvelle vraie voix. Benjamin Glaise, bonsoir à vous.
Bonsoir Jean-Marie, bonsoir à tous.
Et bienvenue dans Les vraies voix Sud Radio, journaliste Sud Radio que vous entendez d'habitude dans le petit matin Sud Radio.
J'ai pas mis le réveil ce matin.
Oui, vous avez fait la grasse matinée parce que vous préfériez être avec nous. On va vous retrouver d'ailleurs, je le précise pour ceux qui nous suivent tout l'été, dans le grand matin Sud Radio à partir de 7h du matin dès lundi prochain.
Et oui, je me prépare déjà.
Ouais, pour une bonne partie de l'été. Profitez de vos grasses mat, ça va pas durer. Chers amis, la famille des vraies voix est presque au complet. Mais surtout que cette semaine, écoutez, on a un nouveau membre dans cette famille des vraies voix. Une nouvelle membre dans la famille des vraies voix Sud Radio, puisque Philippe Rossi et son épouse ont l'immense joie de nous annoncer à tous la naissance de la petite Yaël qui nous a rejoint ce week-end, un bébé magnifique, tiens, d'ailleurs avec une petite barbotière, avec le dessin du Roi Lion, c'est pour ça qu'on a choisi cette musique. La maman va bien, le bébé va bien,
combien de kilos,
on les abrand, on les embrasse.
J'ai pas assez père.
Et le père. Le père, il est fou de joie, et vous imaginez.
Il a fait beaucoup.
Eh oui, il a beaucoup fait. Bah, c'est un travail d'équipe, a priori, la paternité quand même.
Il a fait l'essentiel.
Il a fait, oui, en tout cas, une bonne partie de l'essentiel. On embrasse la famille Rossi très fort. Rarement un petit bout de chou aura été autant attendu par ses parents et on est ravis de les voir rayonner de bonheur ainsi. Au programme des vraies voix ce soir, la petite Yaël a de la chance. Elle est encore trop jeune pour comprendre l'actualité qui nous anime en ce moment. Nous allons faire ce premier débat des vraies voix avec ce centre de vaccination qui a été vandalisé dans le Pays Basque. Des anti-vaccins qui font scandale en s'affublant d'une étoile jaune. Est-ce que ces dérapages, c'est la question qu'on va se poser, sont représentatifs de tous les manifestants, les plus de 100 000 manifestants? On en parle à 17h30. On parlera un peu de cyclisme aussi, les amis. Vous avez suivi le Tour de France?
Grâce à Pascal Chanteur et à Vincent...
Vincent Barthaud, qu'on va retrouver justement à 17h40. Est-ce que le Slovène de 22 ans, Tadej Pogacar, est parti? J'ai pas fait Slovène deuxième langue.
Non.
Donc j'essaierai de donner le champ.
Mais c'est vrai
que
sur ce Tour de France, on a appris les prononciations quand même dans certaines langues.
C'est
notamment le
charme du sport. C'est le charme du sport. Est-ce qu'il est parti, Pogacar, en tout cas, pour écraser le Tour pendant 10 ans, lui qui n'a que 22 ans et déjà deux Tours de France d'affilée?
On connaîtra son nom, moi.
Exactement, on aura le temps de l'apprendre. Et puis à 18h30, le grand débat de vraie voix, les Français vont-ils se plier aux nouvelles restrictions liées au pass sanitaire? Justement, les premières entrent en vigueur dès mercredi. Ce sera dans les cinémas et les lieux culturels de plus de 50 personnes. Vous votez sur le Twitter de Sud Radio. Vous nous appelez 0826 300 300. Tout de suite, les actualités qu'ont retenues nos vraies voix.
Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table.
Tout de suite, là. Ça a commencé?
Oui.
L'émission a commencé?
C'est ce que je viens de dire.
Excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé.
Ah, d'accord.
Le tour de table.
De l'actualité.
Vous ne croyez pas si bien dire, en pensant que ça avait commencé, Philippe Bilger. Vous avez retenu cette histoire rocambolesque d'un logiciel espion israélien utilisé par des gouvernements pour espionner notamment des journalistes.
Mon cher Jean-Marie, vous ajouterez de la substance à mon point de vue, mais ce matin, quand j'ai regardé ça, en général, je ne suis pas friand de ces thèses un peu complotistes, mais là, j'avoue que ça m'a tout de même interloqué. Donc, c'est NSO, c'est un système israélien qui a vendu à certains États la possibilité, mais vraiment d'espionner sur tous les plans, un certain nombre de personnalités de toute nature, des journalistes. J'ai noté qu'il y a, par exemple, Edwy Plenel, ou
le patron de Mediapart.
patron de Mediapart et parce que le Maroc n'aimait pas ce qu'il écrivait. On sait que comme pays, si j'ai bien lu, le pays qui a le plus sollicité, c'est le Mexique. Mmh. Et ouais. On a donc le Maroc, je viens de le dire. Qu'est-ce qu'on a encore
On peut préciser d'ailleurs que le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal, était tout soulagé de nous annoncer ce matin dans les médias que non, le gouvernement français n'était pas mêlé à ça.
Il y a la Hongrie également. Exactement. Tiens, et il y a quelques autres pays. C'est tout de même là hallucinant. Hein,
c'est
franchement,
ça.
Parce qu'on a pu espionner, si j'ai bien saisi, techniquement, absolument
les
tout,
données quoi. Personnelles, les conversations.
Les messages récryptés. Ouais. Aussi,
alors là, c'est franchement...
Vous êtes tombé des nues.
Oui, en quelque sorte. Là, il n'y a plus de secret. Quoi.
Non.
Et même si je ne suis pas un fanatique du secret absolu, il y en a quelques-uns
qu'on
doit
garder. Vous tenez quand
même
à vos messages privés.
Absolument.
Que vous souhaitez
absolument.
Ne pas voir rejoindre voilà. La sphère publique. Notre docteur en droit, surpris ?
Ah oui.
Surpris ? Non, je ne suis pas surpris, parce que bon, on sait très bien que l'espionnage économique, politique existe. Et quand on va sur Apple ou sur je ne sais quel téléphone portable d'une marque étrangère et qu'on a en plus un gouvernant, on sait très bien qu'il y a quand même des informations qui vont circuler.
Là, ce qui est surprenant, c'est des syndicalistes, des opposants, des journalistes.
C'est vraiment la cible qui est beaucoup plus étonnante. Et puis de voir certains États qui devraient être respectueux des libertés fondamentales avoir usage à cela. Mais moi, rien ne m'étonne. Enfin, on sait très bien qu'il y a de l'espionnage économique.
Ouais.
On sait très bien comment la Chine opère en France, notamment pour prendre cet exemple. Il y a eu de très beaux reportages chez vos confrères de France 2 il y a peu de temps sur le développement de la Chine dans les recherches en intelligence économique. Donc, non, je ne suis pas particulièrement étonné.
La France, d'ailleurs.
Plus rien ne vous indigne, mon cher Maxime.
Non, ça ne m'indigne pas parce que, en fait, je trouve qu'on vit un peu trop dans un monde de bisounours où on croit que tout le monde respecte la loi, alors que les États, entre eux, sont des pires, impitoyables. La guerre économique fait rage. Certains ont profité de l'enfermement des pays occidentaux pour se développer. Sur le plan économique.
Là, vous parlez des confinements.
Je parle des confinements. Enfin, vous savez, le crime bénéficie toujours à d'autres.
Bienvenue dans la jungle, quoi.
Alors,
c'est ce que vous nous dites.
On voit même que le droit international est plus respecté sur beaucoup de sujets. Donc, on oublie. On a pensé qu'avec la fin du monde, la fin de bipolarisation du monde, je voulais dire, il y aurait la fin de l'histoire. En fait, on s'est rendu compte qu'on est un monde multipolaire et que ce monde multipolaire.
Ça fait encore plus d'ennemis, de conflits. Benjamin Glaise.
Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Je pense que oui, il y a un côté un peu bisounours de temps en temps où on n'imagine pas ce genre de choses, alors qu'on l'a vu mais déjà avec l'affaire Snowden, qu'on avait une capacité pour certains États, notamment en ce qui concerne là les États-Unis, de pouvoir activer à distance une webcam et de voir ce qui se passait dans une chambre. Enfin, je veux dire, et on s'en étend encore là, alors que finalement, déjà, il y a quelques années avec cette affaire, on savait qu'il y avait ces possibles dérives. Donc, pas surpris non plus, mais c'est vrai que c'est très très inquiétant et c'est important d'en parler. Je pense d'en parler beaucoup aussi de ces risques-là et de les mettre en lumière. Et c'est très bien que ça sorte aussi, quoi. C'est une très belle chose aussi de travailler.
Mon cher Benjamin, je mettrai pas Snowden sur le même plan, mais je comprends tout à fait.
Je ne sais pas lui en particulier, voilà.
Je comprends bien que dans ses vraies voies, je vais être assez souvent minoritaire.
On rappelle qu'il était Edward Snowden, un ancien agent de la CIA, qui est devenu un transfuge moscovite.
Et je reviens un peu sur l'expression que vous avez utilisée, ainsi que Maxime, bisounours. J'entends bien que, et je suis le premier à discuter une forme de naïveté, enfin je l'espère, mais je me demande si à force se persuader que le monde est dur, si on ne perd pas une faculté d'indignation avec des effets parfois opératoires. Là, c'est une sorte de psychanalyse de bazar que je fais. Alors que vous êtes tous les deux très jeunes, je me dis, quand vous aurez mon âge, alors avec cette désillusion, vous serez quasiment au bord du suicide, quoi.
Non, mais tout va bien encore, non, c'est bon. Mais quand vous voyez, par exemple, que certaines grandes écoles de recherche en France ouvrent leurs portes aux Chinois, aux Japonais, à tout le monde pour leur montrer les grandes prouesses de la France.
On peut rappeler que là, on a parlé beaucoup des Chinois, ils y sont pour rien dans cette histoire de logiciel espion.
On sait que dans les attaques d'intelligence économique, on a beaucoup de problèmes avec des pays d'Asie et que les Chinois sont très bons là-dedans. C'est même pas un reproche à l'égard des Chinois. Ils défendent leurs intérêts, ils ont
c'est
une politique
arrivé à la France de faire pareil aussi.
La France a fait pareil. Non, je ne vise pas les Chinois pour viser les Chinois. Je trouve qu'ils sont très talentueux, en fait, dans l'espionnage économique. Nous, on est nuls, c'est pas de notre faute. Et du moins, c'est de notre faute, mais bon, on sait plus faire. Et ils savent comme ça capter de l'information, la traiter, tirer des renseignements, développer leur économie. Les Japonais se sont redressés après la Deuxième Guerre mondiale en allant piquer des technologies de par le monde.
Ils ont toujours été doués pour
ça. Ils ont été très bons
pour
ça.
Sauf que là, on y revient. Donc, on revient quand même au profil des personnalités qui étaient ciblées, qui étaient plutôt des empêcheurs de tourner en rond pour les gouvernements locaux, des journalistes, des syndicalistes, des opposants. C'est pas vraiment celui qui détient le secret du brevet du prochain produit qui vous fera faire fortune.
Politique pure.
Là, on est plutôt sur la salle politique. En tout cas, ça
n'est pas. Pouvoir,
Oui, on est. C'est pas de nature, en tout cas, à rassurer les gens et notamment les Français sur le fait de donner leurs données personnelles, par exemple, ou d'accepter le traçage numérique dont on a pourtant beaucoup besoin pour.
Bah, c'est de savoir comment on protège ces fameuses données, parce qu'on nous dit qu'on peut les protéger, sauf que on a l'impression que plus ça va et moins on arrive à les protéger ces données, et encore plus quand on est français peut-être, parce que j'ai l'impression qu'on a des difficultés aussi. Même si on essaye de se redresser, mais on arrive peut-être un peu tard.
Par exemple, vos données de sécurité sociale quand vous allez dans une pharmacie, il y a une boîte américaine qui les récupère, qui les traite, etc. C'est l'un des exemples. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ne sont pas au courant.
Non, qui ne sont pas au courant. Philippe Bilger, d'ailleurs, l'avait découvert dans Les Vraies Voix Sud Radio, je me rappelle.
Mais moi, alors, c'est vraiment une différence de génération, même si dans la mienne, il y a des gens qui sont beaucoup plus attentifs que je ne le suis à tout ça. J'ai eu, pendant longtemps, j'ai une sorte d'indifférence. En fait, ça m'était complètement égal à partir de l'idée un peu pauvre que moi-même, n'ayant rien à cacher, au fond, ça ne me gênait pas qu'on vienne voir. Mais je crois que c'est un peu simpliste, si j'ose m'incriminer moi-même.
C'était une idée qui était assez généralisée, je pense, il y a quelques années encore, qui était, quelles que soient les générations, où on avait cette impression de se dire, moi finalement, j'ai rien à cacher, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, sauf que finalement, il y a des données personnelles qui sont réutilisées aussi et qui peuvent poser problème. Ouais. Voilà,
et quand ça va jusqu'aux conversations cryptées, vos messages privés, là, par exemple, ça choque tout le monde, effectivement. C'était en tout cas l'objectif, l'efficacité plutôt de ce logiciel espion israélien qui était employé par plusieurs gouvernements, dont le Maroc, dont la Hongrie ou encore le Mexique, a priori, en tout cas, pas la France. Allez, à suivre les amis dans les Vraies Voix Sud Radio, les débats des Vraies Voix. On va revenir sur les manifestants anti-vax qui se sont affublés d'une étoile jaune. Ça a fait beaucoup parler, ce qui était logique. Est-ce que c'est représentatif, ce genre de dérapage de tous les manifestants? On en parle à 17h30. Vous nous appelez, vous votez sur Twitter. Et puis, dans un instant, on poursuit le tour de table de l'actualité. À tout de suite. My sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry.
Les Vraies Voix Sud Radio avec Benjamin Glaise, Maxime Thiébaud, Philippe Bilger, je le disais dans un instant, les débats des Vraies Voix. Est-ce que les dérapages qu'on a observés lors des manifestations contre le pass sanitaire sont représentatifs de tous ces manifestants, ces dizaines et dizaines et dizaines de milliers de manifestants? Mais avant ça, on poursuit le tour de table de l'actualité. Tiens, vaccinez-vous, c'est ce qu'on nous dit, Benjamin Glaise, c'est le mot d'ordre du gouvernement, même si vous êtes en vacances, les amis. Pas de chance, justement, dans certaines régions où les Français passent leurs vacances, il n'y a plus de centre.
Bah oui, notamment dans les Pyrénées-Atlantiques. Alors, c'est pas qu'il n'y a plus de centre, mais c'est qu'on est en train de fermer des centres. C'est quand même surprenant, parce qu'on nous dit, voilà, vaccinez-vous le plus rapidement possible, ça on aura compris. Sauf que, on apprend notamment que dans les Bernes, là, sur ce mois de juillet, on a 3 centres qui ferment. Alors, les raisons sont un peu surprenantes. Alors, on nous dit qu'il y a moins de demandes. Donc, peut-être que là-bas, on est plus vaccinés qu'ailleurs, bon, pourquoi pas. C'est surtout, en fait, aussi parce qu'on a des médecins qui partent en congé, tout simplement, qui sont pas remplacés sur certaines zones. Aussi, on a peu de médecins déjà.
Ils sont crevés. Hein.
Voilà. Ou ils sont crevés, ou il y en a peut-être moins aussi.
Ouais.
On est peut-être sur des zones aussi où il y a moins de médecins. Et donc, on a 3 centres qui ferment et qui ne seront pas. Alors, il y en a un qui sera finalement. Les doses seront redéployées sur Pau, donc pas de souci. Mais pour les 2 autres, il n'y aura pas d'autres solutions finalement.
C'est une baillerou de secours, si j'ose dire.
Oui, une baillerou de secours.
Elle est belle, celle-ci.
Je pense qu'elle a déjà été faite. Sûrement.
Je pense que quelqu'un a les oreilles qui sifflent.
Voilà. Mais quoi qu'il en soit, je trouve ça quand même assez surprenant. Parce que c'est vrai que moi je vois autour de moi des gens qui commencent à s'accélérer un petit peu en se disant c'est vrai qu'avec le pass sanitaire il va falloir se vacciner rapidement si on veut partir, si on veut faire, je sais pas, si on veut aller au restaurant ou quoi.
Si vous voulez aller au cinéma, de toute façon, à partir de mercredi, il faudra soit vous faire dépister, soit présenter, soit être vacciné doublement.
Sauf que là, par exemple, je voyais là sur le cas de Pau, mais on en parlait aussi sur d'autres villes, c'est la même chose. Sur Pau, les premiers rendez-vous c'est à partir du 6 août, là, maintenant,
c'est ça.
Donc ça veut dire donc pas de possibilité d'avoir le pass sanitaire avant début septembre. Oui. Donc il faudra être patient
vous
aussi un petit
peu. Vous comptez à peu près un mois entre les deux doses, plus une semaine en attendant que la vaccination soit efficace. Et c'est ensuite seulement, donc ça fait quoi, 5 semaines à peu près, que vous avez votre pass sanitaire. Et effectivement, d'ailleurs, avec le nombre de rendez-vous qui ont été pris partout en France depuis l'allocution d'Emmanuel Macron, le délai...
Il y a embouteillage un petit peu.
Il y a embouteillage à peu près partout dans le Béarn ou ailleurs. Surpris.
Ce que dit Benjamin est très intéressant à double titre. D'une part, même si on adhérait au discours sur le plan sanitaire du président, on en parlera peut-être tout à l'heure, on est obligé de constater que ça a été fait pour les modalités dans une précipitation absolue. Et vous le dites. Deuxième élément, Benjamin, certes, c'est très regrettable la suppression de ces centres, mais au fond, ça ne fait que rejoindre une incurie désastreuse depuis le début de l'année précédente, où apparemment, là, tout le monde est d'accord pour dire qu'aucun lit n'a été ajouté, qu'on n'a rien fait sur le plan structurel, donc c'est plus grave même que ce que vous évoquez, mais à la limite, c'est le même registre négatif.
Maxime.
Oui, moi je me pose une question purement juridique sur les mesures transitoires en fait. Parce que si vous ne pouvez pas aller vous faire vacciner parce que les centres ferment, ou que vous devez attendre 5 semaines, on va avoir des vraies questions. Vous savez qu'au 1er septembre, les salariés des établissements recevant du public soumis au pass sanitaire sont dans l'obligation...
En théorie, si le planning est retenu.
Moi je parle en théorie si ça fonctionne, après on parlera du fond, mais si ça passe, ils vont être obligés d'avoir un pass sanitaire. C'est-à-dire de faire un test PCR toutes les 72 heures en attendant d'avoir leur vaccination effective. PCR, si ces derniers ont voulu se faire vacciner.
PCR, alors ça, PCR, on dit ou antigénique. Oui, mais ça c'est important quand même. Pourquoi ? Parce que les tests PCR ne seront plus remboursés s'ils sont faits par complaisance début septembre. Début octobre.
Ouais.
Sauf que les antigéniques, pour l'instant,
mais
personne n'a dit qu'ils seraient déremboursés.
C'est hyper abrasif, quoi. Un test
on n'a pas envie de se mettre ça dans le nez tous les deux jours.
On sait qu'il y a des cloisons nasales qui bougent, on sait les risques.
C'est pas agréable.
Et puis ça dépend du gars qui te le fait. Moi, je l'ai fait deux fois. Il y en a un.
Vous avez votre chouchou et vous avez celui que vous ne reverrez plus, quoi.
Le premier, j'avais l'impression que ça faisait pas mal.
Mais je rejoins Philippe sur le fait que structurellement c'est une catastrophe, il n'y a pas d'autre terme.
Mais revenons d'ailleurs à ce débat, parce que cette question elle est importante. On a un appel à la vaccination, les restrictions ont été annoncées par surprise pour beaucoup de Français, la plupart des Français, et s'ils étaient en retard de la vaccination, ils n'avaient techniquement pas le temps d'avoir leur passe avant le début des restrictions, si elles tiennent le planning. Ça peut poser un vrai problème quand même, Philippe.
Sûrement, mais j'ai cherché à le dire, c'est-à-dire que je n'irai pas jusqu'à reprocher au gouvernement d'avoir prévu ces mesures seulement il y a quelques jours, alors que d'aucuns disaient qu'elles auraient été prises un mois plus tôt, mais c'est classique, quoi. On sent que ce gouvernement agit dans l'urgence, et agissant dans l'urgence, il n'est évidemment pas capable de mettre en œuvre l'intendance qui devrait suivre cette injonction présidentielle, et on peut dire que l'intendance ne suit pas, suit mal, très médiocrement, et va créer des problèmes.
Et je suis tout à fait d'accord avec Philippe, d'autant plus qu'on a, on a eu aussi des discours un peu rassurants de la part du gouvernement, de la part d'Emmanuel Macron, nous disant qu'il n'y aura pas de pass sanitaire, ce ne sera pas nécessaire. Oui, bah oui, désolé Jean-Marie, j'ai mis les pieds dans le plat, mais c'est vrai, on nous a dit qu'il
y a un an.
Voilà. Et puis même plus récemment, il y a quelques mois.
Donc, il y a eu un changement
d'avis. Le problème,
c'est
qu'en plus, quand on commence cette période de vaccination, on a tous en tête qu'il n'y aura pas besoin forcément de pass sanitaire, donc si on est jeune, qu'on s'estime protégé plus ou moins, on dit, on va pas avoir besoin de vaccination, et puis là, ça nous tombe dessus. Et puis moi, on voit autour de nous, il y a plein de jeunes qui maintenant se ruent dans les centres de vaccination pour se faire vacciner, et pour le coup, là, pour eux, c'est trop tard. Enfin, ça sera sans doute trop tard pour le pass sanitaire.
En tout cas, ils rateront.
C'est-à-dire qu'il y a un peu... Voilà,
ils vont rater le cinéma, les bars, les restaurants, peut-être les grandes surfaces de plus de 20 000 m² pendant quelques semaines, ça c'est très clair.
À ce moment-là, ne pas dire, il n'y aura pas de pass sanitaire. Ou alors, on va voir. L'évolution de la crise.
Ou alors, moi, j'admets absolument qu'on a le droit à un pragmatisme, mais alors, vous l'avez très bien dit, il y a un ou deux mois, il ne faut pas dire qu'il n'y en aura jamais.
Ça nous amène à la question qu'on va se poser dans le grand débat. Les Français vont-ils se plier à ces restrictions ? En un mot, Maxime Thiebaud.
Je reconnais une très grande qualité au président de la République, c'est son cynisme. Et il a été en capacité le 12 juillet à réussir son pari, c'est celui que les gens aillent se faire vacciner. 4 millions d'inscrits. Paris réussit. On peut débattre sur la légalité, sur le changement de société, sur la très belle tribune de François-Xavier Bellamy. il n'en change rien.
Je rappelle l'eurodéputé Les Républicains.
L'eurodéputé Les Républicains qui a fait une très belle tribune sur le changement de société. On pourra en parler.
L'élargissement du pass sanitaire.
Quoi qu'il en soit, le pari est réussi. Le président de la République a 4 millions de vaccinés. Ouais. Par la peur, la contrainte. On n'a pas changé le paradigme depuis le début. C'est émotion par la peur, infantilisation des Français. On a fait peur sur une repique épidémie. On a infantilisé les gens qui ne s'étaient pas fait vacciner. Beaucoup sont allés se faire vacciner pour acheter leur liberté. Pari réussi. Le président de la
Justement, Philippe Bilger, à l'instant, nous demandait où était l'urgence. Vous allez pouvoir lui répondre.
Ah
d'ailleurs,
oui,
on a le temps.
Parce qu'il fait, comme d'habitude, Maxime, dans une nuance absolue. Hein.
Dans une nuance absolue. Ah, là, j'avais entendu l'ignorance absolue.
Le président ne fait pas de nuance. Le président ne fait pas de nuance. Je ne peux pas en avoir.
On va en parler, justement. Est-ce que, dans ces conditions, les Français sont prêts à se conformer à ces restrictions, ces nouvelles restrictions? Ce sera le grand débat à 18h30. Dans un instant, on revient. Les manifestants, justement, les étoiles jaunes, les actes de vandalisme aussi qu'on a pu constater sur certains centres de vaccination, l'un dans l'Isère, un autre incendié dans le Pays Basque, justement. Est-ce que c'est représentatif de tous les opposants au pass sanitaire? Vous votez, vous nous appelez 0826 300 300, à tout de suite sur Sud Radio. Beating on my trumpet
with all these promises you left for me. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry.
Les vraies voix Sud Radio avec Benjamin Glaise, Philippe Bilger et Maxime Thiébaud. Tiens, est-ce que quelqu'un autour de cette table a manifesté ce week-end? Philippe Bilger?
Pourquoi faire?
Vous auriez pu manifester. Notamment contre le pass sanitaire, par exemple.
Déjà,
auriez...
en soi, mon cher Jean-Marie, je déteste les manifestations.
Premier point.
Mais ça n'est pas une raison suffisante, mais je suis pour.
Vous êtes pour le pass sanitaire. Voilà. Maxime Thiébaud.
Alors, je suis contre le pass sanitaire. Je crois en la science, à la vaccination, mais j'ai manifesté samedi.
Contre l'extension du pass sanitaire, Benjamin Glaise.
Plutôt contre le pass sanitaire, même contre le pass sanitaire. Par contre, la vaccination, j'ai pas manifesté, je m'étais couché tard.
Voilà, on a un manifestant. Les vraies voix Sud Radio sont-ils l'image de la France? Il y en avait en tout cas 110 000, plus de 110 000 d'après la police. Les organisateurs contestent ces chiffres. Dans tout le pays qui s'opposait justement à l'extension de ce pass sanitaire. Certains de ces manifestants ont fait scandale.
Les vraies voix Sud Radio.
Avec des affiches à l'effigie de membres du gouvernement d'Emmanuel Macron portant une moustache d'Hitler, des manifestants qui portaient une étoile jaune avec marqué « non vacciné ». Ça a fait absolument scandale et ça a choqué notamment Joseph Schwartz. C'est un rescapé de la rafle du Veldiv en 1942. Il a fait part de son indignation hier.
Je voudrais dire mon indignation devant ce qui s'est passé cette semaine. Cette comparaison est odieuse. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point j'ai été touché. Les larmes me sont venues. Je l'ai porté, l'étoile, moi. Je sais ce que c'est. Je l'ai dans ma chair encore.
Un rescapé de la rafle du Veldiv qui lui a porté la vraie étoile jaune, contrairement à certains manifestants contre le pass sanitaire ou contre le vaccin qui portait une étoile jaune en disant qu'ils seraient discriminés comme les juifs pendant la guerre parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. Est-ce qu'ils sont représentatifs, ces manifestants-là, ces dérapages de l'ensemble des manifestants? On vous pose la question, vous votez sur le Twitter de Sud Radio, on vous donne la parole au 0826 300 300 dans un instant. Tiens, premier à répondre peut-être Maxime, vous y étiez vous-même. Vous en avez vu des étoiles jaunes.
Moi, je vais être un peu vulgaire, mais les cons, ça ose tout, et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Et il y a des cons partout. Et moi, j'en ai pas vu, pour le coup. Franchement, j'ai manifesté au milieu de la manifestation. Je voulais pas être avec les politiques, j'étais avec des citoyens, des familles. Je n'ai pas vu de gens qui m'auraient choqué. Donc, j'ai pas vu d'étoiles jaunes, j'ai pas vu d'attaque avec des moustaches d'Hitler sur des membres du gouvernement. Donc, je pense
que c'était à Marseille, les moustaches d'Hitler, notamment.
Je savais pas que c'était à Marseille. Mais je pense qu'il y a quelques cas isolés, ça c'est certain, il faut pas aller contre. Mais je voudrais pas qu'on éclipse le débat de fond sur le pass sanitaire et qu'on tombe tous dans le panneau du gouvernement et puis de 2-3 journalistes complaisants et de ce gouvernement pour oublier de parler du pass sanitaire. Alors certes, ces gens-là sont des cons, faut le dire, faut les dénoncer, et après passons à l'essentiel.
Philippe.
Ce ne sont pas des cons, Maxime, ce sont des délirants, c'est beaucoup plus grave. Et le jeu, comment dire, d'abord, je crois qu'ils sont représentatifs, pardon pour cette pétition de principe, de ce qu'ils sont. Parce que les récalcitrants de bonne foi, ils se sont fait vacciner depuis le discours du président de la République. Là, on a des gens qui sont... Je ne parle pas de vous, hein, Maxime. Je sais que vous restez très lucide dans votre opposition, mais il y en a beaucoup contre lesquels on n'aura pas le moyen d'user de la moindre conviction. Et donc, ces outrances, Jean-Marie, ces outrages scandaleux, et là on est d'accord, eh bien, d'une part, je les note, je les relève, ça montre la médiocrité, pire, l'ignominie d'une cause. Et deuxième élément, et là je viendrai paradoxalement un peu à leur secours, je trouve surprenant qu'on s'indigne d'outrance de vocabulaire à propos de ces manifestations, quand c'est une tradition française depuis toujours, où on assimile par exemple la police au SS,
c'est
où on
dit SSS, des horreurs,
mais là je n'entends pas grand monde se scandaliser. Voilà, donc je crois qu'on n'est pas très éloigné.
Manifestations contre, entre guillemets, l'islamophobie, où on avait des gens qui mettaient des étoiles juives.
On a même eu, on a même eu une sénatrice, Esther Benbassa, qui l'avait fait.
Donc, peut-être n'est-on pas très éloigné, sinon sur l'essentiel.
Benjamin Glaze.
Bah, c'est un débat, je vais ranger les grandes boxes du coup. Mais c'est vrai que je suis plutôt d'accord avec l'idée que ça pollue clairement le débat, et que ça fait le jeu du gouvernement finalement, à savoir qu'on n'a pas de débat de fond, qu'on cristallise sur des émotions, comme on l'a entendu, hein, elle était très belle, cette émotion d'un rescapé des...
Joseph Schwartz,
voilà, qui a porté,
de la rafle du Veldiv.
Qui a porté cette étoile, son témoignage est très émouvant, mais le problème, c'est que là, on parle de sujets où on a besoin d'avoir un débat de fond. Et le problème, c'est qu'on ne l'a pas. On joue que sur les émotions. On a peur, on fait peur, on s'insurge, mais il n'y a pas ce débat-là. Et c'est bien dommage.
Et c'est dommage d'ailleurs parce qu'on a aussi du mal à l'avoir sur les réseaux sociaux. Le terme aussi, vous avez parlé des SS, là, dictature, par exemple, est omniprésent, notamment dans des pages où il y a des opposants, pas tous, au pass sanitaire. On va en parler. 0826 300 300. Véronique, nous rejoint sur Sud Radio. Bonsoir Véronique.
C'est moi que vous appelez Véronique, c'est Cécile.
Alors pardonnez-moi Véronique, Cécile.
Bonsoir Cécile.
Bonsoir Véronique Cécile.
Je vous certifie ma chère Cécile que j'étais persuadée que vous vous appeliez Véronique.
Mais ou alors
vous,
Véronique
c'est
en tête.
Aussi, ça ne me dérange pas.
D'où nous appelez-vous ma chère Cécile?
Près de Versailles, à Elancourt.
Bon, bienvenue sur Sud Radio. Est-ce que vous pensez qu'ils sont représentatifs, ces manifestants qui étaient affublés d'une étoile jaune?
Je pense que c'est de... Enfin, ils sont représentatifs, ils crient leur colère, mais c'est de la provocation en priorité. C'est des gens incultes, je pense, qui devraient retourner à l'école. Voilà.
Sur le principe, vous êtes plutôt d'accord avec Philippe Bilger, Benjamin Glaze et Maxime Thiébaud.
Oui, mais représentatifs, ça veut dire qu'ils représentent qu'eux-mêmes. Ils sont minoritaires. Moi, quand j'étais à Invalides, que je surmontais en trottinette jusqu'à Palais-Royal à la manifestation parisienne, c'était noir de monde, il partait encore des gens à Palais-Royal. Et je n'ai rien vu, je n'ai pas vu d'étoiles jaunes. Donc, qu'il y en ait quelques-uns, mais c'est il y a moins. J'espère. Franchement, je pense qu'il y avait moins de gens et des étoiles jaunes qu'il y a de mortalité du Covid, pour être franc.
Bon, Véronique, en tout cas, il faut que j'arrête de vous appeler Véronique. Vraiment, il faut que j'arrête de vous appeler Véronique, ma chère Cécile. Non, mais c'est un joli nom aussi. Ce sera votre surnom, ma pauvre Cécile. Cécile, est-ce que vous pensez qu'ils sont nombreux? Vous avez dû constater justement ce débat, ces manifestations, ces dizaines de milliers de Français, voire centaines de milliers contre le passe. Est-ce que vous pensez qu'ils sont nombreux
Je pense qu'ils sont nombreux, oui.
Qu'ils sont nombreux à être d'accord avec ceux qui portent une étoile jaune, je voulais dire.
Ah, pas l'étoile jaune. Voilà. Non, pas la provocation, puisque ça discrédite leur mouvement, mais qu'ils ne sont pas d'accord, oui.
Pour vous, vous êtes, qu'est-ce que vous pensez de l'extension du pass sanitaire, Cécile?
Bah moi, je vais me faire vacciner la semaine prochaine. Donc, on impose quelque chose. Et c'est la manière de faire, la manière de dire, bon, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous n'aurez plus droit à grand-chose, en fait.
C'est ça. Donc voilà. vous allez y aller juste parce que vous vouliez vous faire vacciner d'ailleurs, Cécile?
Travaille au contact dans l'éducation nationale, donc je suis en contact avec des élèves.
C'est ça.
Donc voilà, non.
Vous avez de sérieux risques de vous faire infecter. S'il n'y avait pas eu ce pass sanitaire, par exemple, vous auriez été vous faire vacciner ou pas?
J'aurais attendu. Ouais.
Vous auriez encore attendu.
Peut-être que l'éducation nationale l'aurait obligé, mais j'aurais attendu, ouais.
Peut-être que ça vous a fait changer d'avis, par la contrainte,
oui,
en tout cas.
Oui.
Merci, ma chère Cécile. de nous avoir appelé. Pardonnez-moi de vous avoir appelé Véronique deux fois ou trois fois d'ailleurs. Passez une belle soirée. Restez bien sur Sud Radio et vous, tous qui nous écoutez d'ailleurs, vous nous appelez 0826 300 300, un mot.
Au-delà de ces délires historiques, et là on va se rejoindre, je suis tout de même un peu inquiet. Ouais. Après le discours du président, je devinais, c'était pas très difficile, qu'il y aurait des tensions. Mais je ne pensais pas qu'il y aurait une telle progression. Première journée, c'est 17 000 dans toute la France. Ouais. Là, on parle de 100 000 et Maxime,
mais rien qu'à Paris, hein,
parfaitement au courant de tout ça, considère qu'ils étaient au moins 150 000. Et donc, ça risque...
Une progression de la contestation. Ah, ouais. C'est cette extension. On parle aussi des dérapages, parce qu'on ne parlera pas que des dérapages, chers amis qui nous écoutez. On va reparler d'ailleurs de l'extension dans un instant et dans quelques minutes même. Mais on peut parler aussi d'actes plus violents. Au-delà de la violence de certains commentaires qu'on voit par milliers sur les réseaux sociaux, parfois même dans les deux camps, un centre de vaccination vandalisé dans l'Isère, ça s'est passé ce week-end, un autre incendié dans le Pays Basque. Est-ce qu'il faut craindre des débordements de plus en plus violents?
Et un autre dans le Doubs aussi, où ils ont carrément coupé le disjoncteur. Oui. Et où il y a eu plus d'électricité pendant une heure et demie, deux heures. Et ils doivent faire analyser les doses pour savoir si on pourra les utiliser ou pas. Et c'est pas sûr.
Monter de la tension, en d'autres termes. Oui.
La tension qui l'alimente aussi. C'est quand même une question qu'il faut se poser. Qui a eu un discours belliqueux le 12 juillet au soir?
Ça n'est pas
le président de la République.
Non, pas du tout. Si. Maxime,
je dis pas qu'il n'aurait pas existé sans lui. Je ne dis pas que les extrémistes ne seraient pas arrivés sans lui, mais il a entretenu cette division des Français.
Je ne suis pas d'accord, Maxime, mais d'une certaine manière, je pourrais vous rejoindre. Je pense qu'il y a une tension considérable à propos du pass sanitaire, mais elle n'est que la continuation d'une France qui déjà avant était fracturée.
Non, mais là, moi, je me réduis simplement aux extrêmes. Je ne parle pas du pass sanitaire. Les gens qui défendent le fait qu'il faut s'opposer au pass sanitaire sont aujourd'hui les vrais libéraux dans ce pays. Les autres n'ont pas compris la dérive qui est en train de s'installer, ou bien font preuve d'assez peu de cohérence intellectuelle, surtout s'ils se sont battus toute leur vie pour les libertés fondamentales.
En tout cas, on aura compris que vous n'êtes pas d'accord avec eux.
Non, mais il y a une chose.
C'est un vrai libéral.
Je suis un vrai libéral. Je suis attaché. Vous savez, en 1917, on a un commissaire du gouvernement, qui s'appelait Corneille, en pleine Première Guerre mondiale, qui a écrit « Dans un État libéral, le principe, c'est la liberté. » L'exception, c'est la restriction. Aujourd'hui, on va mettre en place un pass sanitaire dont le principe sera l'interdiction absolue et générale de pouvoir se déplacer dans des lieux de culture, dans des lieux de loisirs, dans des restaurants, dans certains centres commerciaux.
La vie quotidienne,
et
quoi.
L'exception, c'est pour sera ça que ça cette vous restriction, cette condition via un pass sanitaire, à la condition en fait de se faire vacciner, parce que les restrictions sont tellement importantes que de facto on sera vacciné. Cela, lorsque le principe est celui d'un État où il faut un régime d'autorisation, où il existe un régime d'autorisation, on appelle cela, quand on a des étudiants en deuxième année qu'on fait le premier cours de droit administratif, on appelle ça un État policier. Ça n'a rien à voir avec un État libéral. Il y a Bruno Daugeron, professeur de droit public, qui l'écrit. Monsieur Delvolvé, le président de l'Académie des sciences mais morales et politiques, qui l'a écrit il y a un an.
Après, État policier,
qu'on soit d'accord ou pas,
est-ce que
c'est une réalité.
Ceci dit, vous n'allez pas jusqu'à dire, dans ce cas-là, c'est normal qu'il y ait des centres de vaccination qui sont
vandalisés. Mais non, mais ça n'a rien à voir.
Je vous laisse l'occasion de le dire. Allez-y.
C'est des fous, mais etc.
Philippe Bilger, le mot de la fin.
Lorsque la sauvegarde de tous est en jeu, on ne peut pas parler d'État policier.
C'est la raison, en tout cas, pour laquelle...
0,5% de mortalité, ou lorsque les personnes âgées et vulnérables sont vaccinées, il n'y a plus de mortalité.
C'est
et je finis juste une phrase. Et on se rend compte, il faut regarder les chiffres, que même si le taux d'incidence augmente,
ça fait
le
phrases.
Taux de mortalité continue de baisser et on a 7-16 morts par jour.
Allez, détendez-vous, chers amis. Justement, où en est-on, tiens, sur l'épidémie, puisque c'est vraiment l'enjeu primordial qui justifie d'ailleurs toutes les restrictions qu'on traverse et celles qu'on va redécouvrir. On fera le point avec un membre du conseil scientifique à 18h15 qui est professeur d'infectiologie au CHU de Bordeaux, qui fera le point sur la dangerosité de ce variant Delta et la nouvelle vague dans laquelle on se trouve. On vous posait cette question, est-ce que les étoiles jaunes, par exemple, avec marqué non vaccinés, est-ce que les actes de vandalisme sont représentatifs des manifestants de ce week-end? Vous votiez sur Twitter. Réponse non. 89% d'entre vous sur le Twitter de Sud Radio. Tout de suite, le deuxième débat.
Les vraies voix Sud Radio.
Fais du vélo, fais du vélo, tu vas te faufiler partout.
Je vous propose de vous détendre, les amis. Hein. On va faire un débat sur le sport. On va faire un débat
Ça va plaire à Philippe.
Ouais.
Ah oui, absolument.
Sur la grande boucle. Exactement. Mais tiens, vous
il
faites du vélo de chambre.
Dans sa chambre, ouais.
Ah, oui. Vous avez un vélo de chambre ?
Ah, deuxième étage, j'ai le vélo de mon épouse, mais le problème, c'est que je ne l'utilise pas.
Je vous propose de revenir sur cet événement qu'on a eu le bonheur de suivre Sud Radio pendant un mois, le Tour de France. On va revenir sur le prodige slovène Tadej Pogacar. Est-ce qu'il est parti pour dominer le Tour de France dans les 10 prochaines années ? On accueille celui qui nous l'a fait vivre, ce Tour de France. Vincent Barthaud, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir.
Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes chez vous, hein, consultant Sud Radio, ancien cycliste.
C'était
tiens,
génial.
Mon cher. C'était génial. Ben justement, vous ne croyez pas si bien dire. Je vous propose de réécouter un des meilleurs moments de ce Tour de France sur Sud Radio.
Pogacar, qui vient d'attaquer exactement, qui va sûrement aller l'emporter encore une fois. Il va rester maître de son destin. Il avait décidé de gagner aujourd'hui. Pogacar, c'est ce qu'il fait. Facilement devant Vingegaard et Carapaz. Voilà le podium normalement qui se dessine à Paris. Magnifique victoire du maillot jaune qui montre vraiment que c'est l'homme de ce Tour de France.
Même vous, vous en étiez étoufflé, mon cher Vincent. C'était le 14 juillet, la 17e étape à Muret. Salary-Soulan au col du Porté, victoire en solitaire de Tadej Pogacar. Il vous a impressionné, mon cher Vincent?
Oui, bien sûr, par sa fougue, par sa jeunesse. Il a été vraiment impressionnant. C'est vrai que il commence à avoir beaucoup d'expérience, même si il a déjà gagné deux Tours de France, mais il a déjà fait troisième d'une Vuelta. Il a quand même gagné cette année pratiquement cinq courses à étapes sur six auxquelles il a participé. Donc c'est vrai, ce jour-là, il a impressionné, même sur les trois semaines.
Alors, est-ce qu'il s'est baladé lors de ce Tour de France parce qu'il était nettement plus fort que tout le monde, ou parce que, aussi, parmi ses principaux rivaux, en tout cas les plus dangereux, il en manquait, Egan Bernal, Primoz Roglic, par exemple, Vincent?
Oui, alors effectivement, tous les principaux acteurs à côté, les suiveurs, les consultants, on s'est tous un peu dit la même chose. C'est pas qu'il s'est baladé, parce que c'est quand même pas forcément évident. Il a puisé des fois dans certaines réserves. On l'a vu à une certaine étape où il a été mis un peu en difficulté et où il a réussi à limiter les écarts quand il est revenu dans la descente, et puis dans le contre-la-montre samedi, où il a sûrement voulu éviter un peu de prendre des risques pour éviter la chute très haute, mais il ne fait que huitième du classement de cette étape. Après, c'est vrai qu'il a manqué d'adversité, il a manqué de concurrence. On aurait cru que les Ineos auraient été un peu plus prêts pour Ineos Grenadier, prêts pour ce Tour de France, mais ils ont plus ou moins tous coincé comme Carapaz. Et puis la chute de Roglic, ça, faut pas le louper, faut pas le manquer, faut pas l'oublier. C'est que ça nous a loupé un gros duel entre les deux. Je pense que ça aurait été son adversaire le plus dur jusqu'au Champs-Élysées.
Comme l'an dernier, jusqu'à la planche des belles filles, précisément.
Voilà. Et puis le Colombien Bernal, qui a préféré aller gagner le Giro cette année, qui n'a pas participé au Tour. Donc voilà, il manquait sûrement un peu d'adversité, c'est sûr.
Benjamin.
Pardon, excusez-moi, je suis en train de m'étouffer. C'est pas le Covid, j'ai fait le test antigénique ce matin.
C'est le col du Porté, ça essouffle.
C'est d'entendre autant d'efforts, là, c'est sympathique. Pas beaucoup d'adversité, ça c'est sûr. Après, il y a une belle surprise du Danois, la deuxième, Vingegaard, qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là. C'est plutôt sympa de voir des jeunes comme ça. 22 ans quand même, Pogacar, si j'ai pas de bêtises.
Deux Tours de France, 22 ans.
Deux Tours de France, incroyable. Je voyais sur les stats, c'est d'autant plus phénoménal qu'au début de la troisième semaine, il avait plus de 5 minutes d'avance sur le deuxième. C'est du jamais vu depuis l'an 2000, depuis l'ère Lance Armstrong. Ça rappelle des mauvais souvenirs. En tout cas, alors, c'est dire soit la performance, c'est ça la question que je pourrais poser, justement, c'est est-ce que lui, il est complètement au-dessus, ou est-ce que juste il n'y avait pas de concurrence sur ce Tour de France? Les deux questions peuvent se poser. Ou est-ce qu'il y avait les deux?
Disons qu'il est arrivé tout de suite dans cette première semaine en Bretagne où il a vraiment tout donné. Il a vu qu'il pouvait faire un bon écart tout de suite, parce qu'on est rentré dans une semaine en Bretagne qui n'était pas forcément facile. Il y a eu la pluie, il y a eu la nervosité, il y a eu les chutes, puis il y a eu tout de suite ce premier rendez-vous important du contre-la-montre où il a écrasé tout de suite
tout
le monde.
Il
a su être présent après dans la première étape des Alpes, et là tout de suite il a pris son petit fauteuil, son petit matelas, et après il a suggéré, puisqu'il n'a jamais vraiment été attaqué.
Philippe Bilger.
Alors, Vincent, vous allez encore réprimander, mais depuis la victoire de Pogacar, il y a une page consacrée à l'exploit et une seconde page qui est consacrée au doute. Est-ce que, de la part d'un grand spécialiste comme vous, Vincent, le fait qu'à 22 ans, ce jeune homme, il n'y a pas une multitude de Mozart par siècle, remporte deux Tours de France et crée objectivement une distance considérable par rapport aux autres, est-ce qu'il est légitime de s'interroger ou une nouvelle fois, est-ce que c'est des mauvais esprits qui doutent ?
Non. Non, non, on est obligé. Forcément qu'on est obligé de s'intéresser, enfin, d'essayer de se poser un petit peu des questions. Alors, on fait beaucoup une fixation sur Pogacar, mais Vingegaard, qu'on connaissait encore moins, il fait quand même deuxième. Et ça, il rentre pas dans l'exploit parce qu'il est deuxième et le public ne retient que le premier. Mais Vingegaard, c'est aussi surprenant. Mais avant tout, si vous voulez, je vais pas vraiment avoir de réponse à vous donner. C'est jusqu'à preuve du contraire, on peut qu'admirer l'exploit et saluer le champion en restant prudent, bien évidemment. Mais ça fait 30 ans que ça dure dans le vélo. Ça fait 30 ans qu'on se pose toujours des questions. Et qu'est-ce que vous voulez y faire? Moi, en tant qu'ancien cycliste, je ne peux que admirer ce jeune coureur.
C'est logique.
C'est pas le premier, arrivé comme ça. Il y a aussi Jan Ullrich qui a gagné relativement jeune. Laurent Fignon a gagné son premier tour à 23 ans. Donc c'est pas forcément évident, mais on peut se poser la question. Alors j'espère que on n'a jamais rien ignoré des scandales qui ont submergé, éclaboussé et essayé de tuer le Tour de France, mais j'espère qu'il triche pas et j'espère qu'il est fort naturellement.
Mon cher Vincent, justement, on l'a dit, Tadej Pogacar, 22 ans, deux Tours de France, le record est à 5, hein, 5 Tours de France, Anquetil, Merckx, Hino, Indurain. Est-ce qu'il va le battre, ce record?
On va le laisser déjà savourer de gagner son deuxième tour, et nous aussi. Il peut le battre, forcément. Oui, forcément, parce que puisqu'en deux participations, deux victoires du Tour, c'est vraiment phénoménal. Mais attention, c'est ce que je disais un peu hier. Il y a les adversaires derrière. Bernal risque d'être présent. Roglic va revenir, il va pas tout le temps chuter et voilà. Et puis il y a aussi Wout van Aert qui a été impressionnant, ce coureur belge qui a gagné au Ventoux, qui a gagné contre la montre, qui a gagné hier sur les Champs-Élysées, qui se donne à fond, qui se donne à fond dans les cyclocross à chaque fois. Si jamais il se refait un nouveau programme pour arriver uniquement pour essayer de gagner le Tour, c'est pas forcément évident que Pogacar gagne toujours, parce qu'on a aussi un autre phénomène, Evenepoel en Belgique, on va avoir de beau duel et de dire à ce qu'il gagne. Voilà, et de dire à ce que Pogacar va gagner 5 tours, 6 tours, attendons encore un peu avant de nous poser la question. Je pense que l'an prochain, ce tour-là, il a été magnifique quand même, mais l'an prochain, je pense que on peut avoir encore un plus beau tour avec des leaders vraiment qui vont être prêts, qui vont employer la tactique pour essayer de contrarier un peu l'équipe de Pogacar et essayer de le mettre un peu plus dans la difficulté que cette année.
Ouais, une question à Vincent, juste parce qu'on a parlé de pas mal de coureurs, de cyclistes là, jusqu'à présent, on n'a pas donné de nom français. C'est vrai que c'est un tour un peu particulier. Alors on a le combatif du Tour,
François
Bonnamour qui a été
Un titre honorifique, mais
c'est vrai qu'on l'a beaucoup vu en tout cas dans ce Tour de France. Et à côté de ça, une seule victoire
où sont
française,
les Français, Vincent,
dès la première étape, et au final, plus en derrière. Quoi.
On a eu un peu.
Les Français, on a effectivement du mal. C'est parti un peu trop bien pour les Français, puisque rappelez-vous, avec la victoire d'Alaphilippe et le maillot jaune.
Tout à fait.
Mais il appartient à une équipe belge, mais il est quand même français. Après, c'est vrai qu'on a eu quand même la 8e place de Guillaume Martin, qui était parti dans l'optique d'aller chercher une étape avant de basculer vers la défense, parce qu'il a vu qu'il pouvait pas forcément gagner quand et finir 8e à Paris, c'est quand même beau. Mais David Gaudu, qui finit 11e, aurait pu essayer de mieux faire, mais il a malheureusement eu un petit pépin au niveau gastrique à l'étape du Ventoux. Il a pris 25 minutes, mais c'est un coureur qui aurait pu peut-être rentrer dans les 5 premiers. Mais pour simplifier, c'est vrai que la jeunesse chez nous, les Français, ont avec la jeunesse des étrangers, avec les noms que je vous ai cités tout à l'heure, on va attendre encore un moment avant qu'on regagne un Tour de France, malheureusement. Autant on a eu la chance d'avoir des Fignon, des Hinault, des Bernard Thévenet avant. Là, je pense
qu'on n'est pas dans les années fastes. On n'est pas dans les années
fastes. Non.
Demain est
un
autre tour. Écoutez, on verra. Merci beaucoup.
Oui. Juste pour finir, parce que si vous voulez, en France, on a la plus belle course au monde, mais on n'a vraiment pas forcément la culture vélo. Vous savez, c'est les Belges, ils ont la culture vélo, les pays scandinaves, tout ça. Voilà, en France, on est peut-être dans un petit cocon, on a tout ce qu'on veut. Donc, quand on commence à s'apercevoir déjà que le vélo coûte cher et que c'est aussi un sport difficile, on essaye peut-être de passer plus de temps à la PlayStation.
C'est peut-être le même problème avec Roland Garros. Merci Vincent Barthaud de nous avoir fait vivre ces sacrés moments quand même.
Merci à vous. Je vais remercier tous les auditeurs qui nous ont écoutés. On a été super contents avec Pascal Chanteur de travailler avec vous. Et on espère continuer l'an prochain et d'essayer de faire encore des belles choses.
Rendez-vous au prochain tour. Merci. On vous posait la question. En tout cas, on vous embrasse vous aussi, Vincent Barthaud. On vous posait la question sur le Twitter de Sud Radio. Pogacar parti pour dominer le Tour de France pendant 10 ans. Réponse non à 61%. Restez avec nous dans un instant. Les rois de l'info, c'est Grâce Le Plat qui va tester votre connaissance de l'actualité très sérieuse. À tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry.
Les vraies voix Sud Radio, Philippe Bilger, Maxime Thiébaud, Benjamin Glaise et Grâce Le Plat qui nous rejoint. Grâce Le Plat qui va nous faire jouer au roi de l'info.
Les vraies voix Sud Radio. Le roi de l'info.
Mais bonjour Grâce.
Bonsoir Jean-Marie, bonsoir à tous.
Allez, 0826 300 300. Allez-y, ma chère Grâce.
Oui, bonsoir, Basile. Pour commencer, avec quelle vraie voix voulez-vous jouer?
Avec Philippe Bilger.
9 fois sur 10.
Oh, quelle erreur, quelle erreur.
Allez-y. Grâce nous rappelle
le savent trop tard.
Il y a de la corruption, je suis sûr.
Allez, on va respecter l'arbitre qui s'appelle Grâce, qui est à distance, donc vulnérable. Grâce va vous rappeler les règles.
Je vais donc vous poser 3 questions. Vous répondez en premier, donc Basile. Et si vous vous trompez, les vraies voix répondent. Et si Philippe Bilger a raison, vous gagnez le point quand même. Alors, première question. La semaine dernière, à Paris, 2 personnes ont tenté de braquer une banque. On est dans le 20e arrondissement. La scène est filmée par les clients du café d'en face. J'espère que vous visualisez un petit peu la scène. Les 2 braqueurs s'attaquent à un distributeur de billets avec une voiture bélier, mais ils repartent bredouille. Pourquoi ? A. Le distributeur était vide. B. La voiture s'est cassée. Ou réponse C. Il y avait des policiers dans le café. Ils les ont vite arrêtés.
La réponse B.
La voiture s'est cassée.
Oui.
Et c'est une bonne réponse. La voiture s'est cassée. En fait, c'était pas du tout une grosse berline qui aurait pu casser le distributeur de billets. C'était une Peugeot 205.
Donc, comme quoi.
Ça n'a pas tenu le choc.
Raté. Allez,
c'est
deuxième question.
C'est le genre de braquage d'Elise Moon dans
c'est
son
ça.
Histoire.
Exactement. C'est un gag. Grâce.
Deuxième question, donc, on va voir si vous avez bien suivi la dernière étape du Tour de France hier. Ah. Il s'est passé quelque chose d'assez inhabituel. Réponse A, un spectateur a fait tomber les coureurs. Ça peut arriver.
C'est arrivé.
Réponse
c'est
B, un cheval, c'est arrivé. Un cheval a fait irruption sur la route. C'est arrivé aussi. Et réponse C, un radar a flashé les coureurs. C'est arrivé aussi. Mais alors, qu'est-ce qui est arrivé hier ?
Basile.
Hier, quelqu'un a fait tomber les coureurs.
Le spectateur vous dit.
Ah, il n'a pas suivi la dernière étape.
Moi non plus.
Qui l'a
C'est le radar.
Ça fait un partout, justement. Bien vu. En tout cas, on fait la dernière question assez rapidement, Grâce Le Plat, pour les départager.
La dernière question, écoutez bien. Est-ce que vous avez entendu parler du film Kaamelott?
Oui.
Ouais. Alors, un fan de l'univers de Kaamelott s'est lancé un défi.
Ah oui.
Il veut battre le record mondial du nombre de visionnages d'un même film au cinéma. Selon vous, combien de fois quand-il allé voir le film ? A, 75, B, 191 ou C, 200 fois ?
Basile.
Oh, 200 fois.
D'autant plus que les vraies voix, on avait déjà parlé.
Il faut qu'il pose la passe sanitaire.
Et c'est une bonne réponse, 200 fois exactement.
Bravo Basile.
Bravo. Merci bien.
Bravo Basile. Bravo. Vous pourrez d'ailleurs, pourquoi pas, aller voir Kaamelott au cinéma. Mais en tout cas, à partir de mercredi, ce sera avec le passe sanitaire. Ça sera un petit peu plus compliqué. Merci d'avoir joué avec nous et avec nos vraies voix. Vous avez gagné quand même. Restez en ligne surtout. Et puis surtout, continuez à nous écouter sur Sud Radio tout l'été. On sera ravis de vous retrouver, mon cher Basile. Et vous tous aussi qui nous écoutez, restez avec nous. Les vraies voix Sud Radio reviennent dans quelques instants. Place au grand débat. Est-ce que les Français vont s'y conformer à ces fameuses nouvelles restrictions, à cette extension du pass sanitaire? Vous votez, vous nous appelez. À tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry.
Les vraies voix Sud Radio avec Philippe Bilger, magistrat honoraire, président de l'Institut de la Parole. Maxime Thiébaud est avec nous également, docteur en droit, auteur du livre Gilets jaunes vers une démocratie réelle. C'est publié chez VA Presse. Benjamin Glaise.
J'ai pas de bouquin, moi.
Non, pas de bouquin. Non. Vous profitez de vos dernières grâces matinées avant de rejoindre le Grand Matin Sud Radio la semaine prochaine. Journaliste Sud Radio. Tiens, les amis, on parlait du Tour de France il y a un instant. C'est un anniversaire aujourd'hui. C'est l'anniversaire de la première arrivée du tout premier Tour de France. C'était en 1903, il y a 118 ans. Petite devinette d'étymologie. On parlait de vélo, c'est vélocipède à la base. Ça voulait dire quoi, vélocipède? Tiens, Philippe Bilger.
Il y a vélo, il y a pied.
Oui.
C'est qu'on poussait le vélo dans les côtes.
Exactement, c'est ça. Vélox, rapide, bien sûr, et le suffixe pède, les pieds rapides, on pouvait dire que ça. À l'époque, les premiers vélos, avant ce Tour de France-là, hein, évidemment, ça s'appelait les Draisiennes. Vous aviez les deux roues, mais la selle était plus basse, comme ça, vous avanciez en vous traînant comme ça, avec vos pieds sur le sol.
Et la première étape, c'était Paris-Lyon.
Oui, alors ça, sur des vrais vélos.
C'était des grosses étapes à cette époque-là.
Et sacré d'exploit, hein, les gars.
Les premiers, l'époque héroïque. Elle est au programme de la deuxième heure des Vraies Voix Sud Radio. Le grand débat, on le disait, alors qu'elle commence dès mercredi dans les cinémas et dans certains lieux de culture qui accueillent plus de 50 personnes. Est-ce que les Français vont se conformer, se plier aux nouvelles restrictions liées au pass sanitaire? Vous votez sur le Twitter de Sud Radio. Vous nous appelez 0826-300-300 dans quelques minutes. Tiens, la raison pour laquelle ces restrictions reviennent, c'est quand même cette quatrième vague. On est en plein dedans avec le variant Delta. Est-elle plus dangereuse que les vagues précédentes? On fera le point avec un infectiologue du CHU de Bordeaux qui est membre du conseil scientifique. Mais tout de suite, on conclut le tour de table de l'actualité.
Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table.
Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste.
Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent.
Le tour de table
de l'actualité.
Parce qu'une autre actualité importante, ce sont les Jeux Olympiques de Tokyo qui commencent dans quelques jours avec leur
vendredi.
Ouais. Benjamin Glaise, il y a les premières polémiques plus ou moins surprenantes de ces Jeux Olympiques.
Les premières polémiques, c'est les premiers cas de Covid parmi les athlètes.
Classique.
Au cœur même du village olympique. Donc ça, c'est une grosse question.
La bulle a crevé.
Voilà. Mais la grosse polémique du moment, c'est pas ça, c'est effectivement une polémique un peu plus surprenante. Alors, on entre ensemble, si vous le voulez bien, dans l'intimité de nos athlètes. En l'occurrence, dans leur chambre à coucher, avec un bruit qu'on risque de très peu entendre pendant cette quinzaine de compétitions. Je sais pas si vous reconnaissez.
Ah oui, c'est un matelas avec des ressorts qui craquent beaucoup.
Qui grincent.
On imagine qu'il y a deux
peu.
Athlètes dessus. Oui.
Eh bien, les ressorts, ils ne vont pas grincer beaucoup puisque les lits, en l'occurrence du village olympique, sont faits en carton.
Mais quelle idée.
Avec du carton.
Ça va craquer alors.
En tout cas, ces lits ont une nouvelle appellation, un nouveau surnom maintenant. Ouais. Ce sont les lits anti-sexe. Voilà. Vous c'est savez qu'en général, le village olympique est connu pour quelques petits débordements.
Oui.
Ça se fait
le
plaisir.
Le repos du combattant
cas,
ou de la combattante.
C'est très bon pour l'entraînement. Hein.
En tout cas,
on peut plus aller au resto et qu'on peut même plus coucher.
Donc, les Japonais ont mis à disposition des meilleurs athlètes du monde des lits en carton.
Des lits en carton.
C'est quoi cette idée ?
Et alors, pour tout vous dire, la polémique elle est née donc d'un tabloïd américain qui a parlé de ces fameux lits anti-sexe. Il y a un gymnaste irlandais qui a voulu tester lui-même. Alors bon, je vous rassure pas en le testant avec une partenaire de compétition, mais il a sauté lui-même sur son lit pour montrer qu'il était assez solide. Et le résultat, c'est qu'il n'a pas cassé le lit en carton. Il a tenu, et effectivement, il parle même de fake news, ce n'est pas un lit anti-sexe. Alors la polémique va si loin que le CIO a lui-même réagi sur Twitter.
Le Comité international olympique.
En affirmant qu'il recevait beaucoup de questions sur ce lit écolo. Parce que, ils sont en carton parce que c'est plus écolo, selon eux. Le fabricant, là-dessus, ajoute de son côté que les lits peuvent supporter jusqu'à 200 kilos. Donc,
c'est pas mal.
C'est déjà pas mal.
Ça dépend de la
faut pas de lutteur ou lutteuse gréco-romaine ou lanceur ou lanceuse de poids ou les sports les plus solides.
Oui, il faut pas de groupe non plus.
Non, c'est ça. Voilà. Exactement. C'est une personne à la fois.
Tout de suite, vous pensez à des débordements.
J'ai l'esprit mal passé. C'est son esprit olympique à lui, à Maxime Thiebaud, qui a déjà dormi dans un lit en carton. Quelle idée quand
même. Ah oui, non, ça me tente pas du tout.
Non, moi non budget, pas assez écolo.
Même pas carton, pas rien.
Rien. Maxime Thiebaud.
Bon vieux Litty Grince.
On peut avoir une pensée.
Ça donne la cadence. Comme
exactement, ça permet de garder le rythme. On peut quand même avoir une pensée pour les Japonais. Et s'il y avait une année, Dieu sait si les Français ont essayé de l'obtenir, les décrocher ces Jeux Olympiques, s'il y avait quand même une année où il ne fallait pas décrocher les Jeux Olympiques, c'était l'année dernière. Les JO de Tokyo auraient dû avoir lieu l'an dernier. Ouais. Cette année, ça a lieu quand même, mais à huis clos, personne ne vient. Hein. Pourvu que les prochains qui auront lieu à Paris nous permettent de relancer le tourisme. Merci à vous. Ouais. Benjamin Glaise.
Et puis comme on a déjà les embouteillages, ça ne changera pas.
Ça ne vous changera pas vous-même, mon cher Philippe. Quoi qu'il en soit, restez avec nous sur Sud Radio. Les vrais voix viennent dans quelques instants. On quitte les JO, on vient aux restrictions. Désolé, hein, c'est le pass sanitaire, ça avance. En tout cas, les prochaines restrictions, c'est dès mercredi pour les cinémas et les lieux de culture. Les Français vont-ils s'y conformer? Et puis on va faire le point tout de suite sur la nouvelle vague, la quatrième vague de coronavirus, celle du variant Delta. Est-elle si dangereuse que ça? Est-elle plus dangereuse que les autres? On fait le point dans un instant.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry.
Les vraies voix Sud Radio avec Philippe Bilger, Maxime Thiebaud et Benjamin Glaise jusqu'à 19h. Nous parlons de cette nouvelle vague, cette quatrième vague de coronavirus en France. La vague du variant Delta, plus de 11 000 cas par jour et ça continue à augmenter de Covid par jour en France depuis une semaine. 60% à peu près de ces cas seraient au moins liés au variant Delta qui est devenu majoritaire. Augmentation continue, voire exponentielle. Une quatrième vague en plein été. On est à la mi-juillet. Ça change de ce qui s'était passé l'an dernier. La question, est-ce qu'elle sera plus forte que les vagues précédentes? Bonsoir à vous, Denis Malvy.
Bonsoir.
Professeur de médecine infectiologue au CHU de Bordeaux. Vous êtes par ailleurs membre du conseil scientifique. L'été dernier, au même moment, on n'était pas du tout dans la même situation.
Non, nous n'étions pas dans la même situation. Nous avions affaire au variant UK, britannique, qui était en train de prendre la main sur le variant historique Wuhan, mais qui avait un niveau de transmissibilité bien moindre que celui qui concerne le variant Delta et qui est responsable de l'actuelle quatrième vague. C'est Mais ça. Il y avait une différence. Nous commencions à avoir de l'expérience pour la gestion de cette pandémie, notamment les mesures barrières, les méthodes de traçage, le fait qu'il fallait s'isoler. Nous n'avions pas encore la vaccination. Heureusement, à cette date, nous disposons d'un outil vaccinal qui permet à la fois de diminuer cette transmission et puis surtout de se protéger contre ce variant qui est plus transmissible, plus sévère, mais qui reste vulnérable à la vaccination.
Alors, question, Denis Malvy, on voit pour l'instant, on est au début de cette vague dans la mesure où les augmentations, les contaminations augmentent, mais pas encore les hospitalisations et encore moins les réanimations, voire les décès. On est à peu près la moitié de la population française, un peu plus d'ailleurs, qui est primo-vaccinée, qui a une dose. Est-ce que ça veut dire que ça suffit pour qu'on puisse encaisser une nouvelle vague de Covid sans déborder nos hôpitaux, ou est-ce qu'au contraire, vous voyez que ça change rien qu'au CHU de Bordeaux?
Moi, je pense que c'est une excellente nouvelle, le fait que la moitié de la population française ait déjà reçu une dose. Mmh. Et que s'agissant de la population cible initiale et qui reste toujours notre préoccupation, les personnes à risque, et si on va très vite, des personnes âgées de plus de 65 ans, là, nous sommes à 80%. Ce n'est pas 100%, mais c'est déjà tout à fait remarquable. Par contre, dans le reste de la population, entre les personnes de 12 à 65 ans, il y a cette frange des 45-65 ans qui sont ceux que l'on voit revenir dans le soin et déjà dans nos hôpitaux. Et cela, il faut vraiment qu'ils se fassent vacciner parce que il y a un défaut de niveau de vaccination, y compris sur la première dose, que l'on a les moyens de combler immédiatement pour faire en sorte que la quatrième vague dans laquelle nous sommes rentrés n'ait pas les répercussions de la troisième.
Alors vous êtes infectiologue, je le disais, professeur d'infectiologie. Qui d'abord est le plus touché par cette vague, qui est le plus contaminé? On va commencer par ça. Ce sont des très jeunes, des jeunes?
Alors, ce que l'on va revenir, y compris dans nos hôpitaux, y compris dans les services de réanimation, qui, Dieu merci, ils sont encore peu nombreux, et on espère qu'ils resteront le moins nombreux possible, ce sont des personnes entre 45 et 65 ans avec des facteurs de risque. Donc cette frange des adultes qui avancent vers un âge tout à fait modéré et qui n'ont pas été encore vaccinés. Toutes les personnes qui doivent recevoir des soins en contexte d'hospitalisation sont des personnes non vaccinées.
Tous ceux que vous avez, en tout cas, vous, au CHU de Bordeaux, Philippe Bilger.
Denis Malvy, vous Absolument. Avez utilisé tout à l'heure l'adjectif « remarquable ». Est-ce que ça veut dire que vous considérez que la politique de vaccination du pouvoir a été bien faite, alors que je crois me rappeler qu'elle est dans les classements, elle n'est pas très bien placée, elle est 16e ou 17e, quelque chose comme ça?
Ça dépend quel est le type de classification dont on s'empare. Moi, je suis très factuel. Le problème de la quatrième vague, ce n'est pas un problème de la France, ni même du Sud-Ouest, ni même de Bordeaux, ni même de mon service. C'est le problème au moins de l'Europe. Et même au-delà de l'Europe, celui de outre-Méditerranée, de nos voisins du Maghreb, en particulier de la Tunisie. Et quand on regarde ce qui se passe actuellement en Allemagne, ce qui se passe en Espagne, ce qui se passe en Portugal, je ne pense pas que la situation de la France soit la pire à ce jour. D'accord. Même si, en termes de niveau de vaccination, il y a un effort à faire et c'est le moyen qui fera que cette quatrième vague ne sera pas aussi vulnérante que la troisième.
Denis Malvy, la Grande-Bretagne est à plus D'accord. de 40 000 nouveaux cas par jour, si je ne m'abuse, de coronavirus. Est-ce que donc ils sont en avance sur nous sur cette quatrième vague, est-ce que les hospitalisations augmentent aussi en Angleterre?
Les hospitalisations sont en train d'augmenter, même si ce qui n'est pas apparent aujourd'hui, et tant mieux, et on espère pour tous nos voisins européens et nous-mêmes que nous en serons là en septembre prochain, c'est la létalité. Par contre, les services sont en train de se remplir. Moi, je suis en contact avec des collègues anglais, jour après jour, et ils me parlent de ce qui se passe en Angleterre, et les choses ne sont pas idylliques comme on pourrait le penser à travers les relais d'information.
Benjamin Glaise.
Oui, Denis Malvy, c'est vrai qu'on nous a parlé pendant des mois de cette possible nouvelle vague qui devait arriver à l'automne prochain. Vous avez parlé des spécificités, notamment de ce variant Delta. Est-ce que on peut l'expliquer seulement par ces spécificités ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent expliquer que cette vague soit plus précoce qu'on ne l'attendait?
La précocité, c'est lié à la transmissibilité. La transmissibilité multipliée par deux par rapport au variant britannique, le variant Alpha qui est en train d'être submergé. Et c'est ça qui explique le fait que dans le groupe très transmetteur que sont les jeunes et chez les adultes non encore vaccinés vulnérables, on voit ce pic exponentiel de jour en jour concernant le variant Delta. C'est déjà largement suffisant. Vous savez, moi, j'ai regardé l'arrivée du Delta du point de vue du clinicien, avec, au mois de mars, les cas importés qui arrivaient d'Inde, soit des cas d'origine avec une contamination professionnelle chez des expatriés, soit chez des étudiants. Là, on repérait les chaînes de transmission, c'était facile, on les contrôlait. Et ensuite, on a eu, dans un laps de temps extrêmement ramassé, les régions qui commençaient à être impactées, comme la région des Landes, dans mon sud-ouest, avec des clusters communautaires très difficiles
aujourd'hui,
à repérer
il est
et donc
partout,
à contrôler. Et maintenant, il est partout. Donc, on a eu une épidémie dans l'épidémie avec un scénario extrêmement accéléré.
Maxime Thibault.
C'est très intéressant ce que vous dites parce que ça démontre une chose. C'est qu'à partir du moment où les personnes vulnérables et les personnes âgées sont vaccinées, on peut avoir une contagiosité importante. On n'a pas une létalité qui est importante.
Pas encore, en tout cas.
Et on n'en sait rien. C'est ça aussi. C'est qu'on a aussi, l'exemple britannique qui nous prouve que la létalité n'augmente pas. Et je suis ravi. Je suis très content de voir que la létalité n'augmente pas. Mais ça pose la question de la proportion des mesures sanitaires et notamment de l'obligation vaccinale.
On va y revenir dans un instant.
Ça, c'est une vraie question. Et vos observations sont très intéressantes parce qu'elles sortent du climat alarmiste qu'on voit en permanence où on confond contagiosité et donc taux d'incidence et puis la létalité, bien sûr.
Denis Malvy, alors on est tous réduits à le souhaiter. Est-ce qu'on peut espérer que la mortalité n'augmente pas du tout avec cette quatrième vague malgré l'explosion des contaminations ou pas? C'est plausible ou pas scientifiquement?
En Tunisie, la létalité augmente en même temps que la sévérité et la transmissibilité. Ça, c'est l'exemple le pire. En Angleterre, on voit les malades qui sont revenus dans les hôpitaux avec un impact sur la létalité qui n'est pas encore objectivé, mais n'ont pas le même type de politique vaccinale non plus en termes de quantité. Et moi, je ne peux pas garantir le fait que si nous en restions là où nous en sommes, nous n'aurions pas une majoration de la létalité qui serait véritablement le pire. Par contre, ce à quoi il faut s'attendre, c'est la mobilisation des équipes de soignants qui sont fatiguées. On est en train de vraiment reconstituer nos équipes et cette quatrième vague ne doit pas nous faire exclure la nécessité de devoir donner du soin, y compris du soin de réanimation et peut-être critique, ce dont on se passerait. À côté de cela, il faut vacciner évidemment toutes les générations. Moi, je ne suis pas pour mettre les jeunes d'un côté ou les personnes âgées, très âgées ou moyennement âgées. C'est un effort collectif qui fait que, en contrôlant à la fois la vulnérabilité et la transmissibilité, on va garantir à tout le monde le fait qu'on reprenne une vie normale. Dans 3 ans, tout le monde sera porteur d'anticorps, de par le monde. On l'aura eu avec 2 visages. Soit la vaccination, soit l'infection sauvage, avec des infections aiguës plus ou moins méchantes, mais des Covid longs qui n'ont, eux, dont on parle relativement peu, mais moi je commence à les voir dans mes consultations, ils n'ont pas dit leur dernier mot, et on peut avoir un Covid long extrêmement agressant et séquelaire en ayant eu une maladie aiguë presque périsymptomatique.
Sachant que vous venez de nous dire, dans 3 ans, on aura tous des anticorps, mais 3 ans, c'est long, sachant que l'année qu'on vient de traverser, absolument, elle est particulièrement longue pour nous et encore plus pour vous tous, personnel soignant. Merci à vous, Denis Malvy.
Et il faut reprendre la vie culturelle, sociale, professionnelle, il faut reprendre un jour d'avant qui soit rééclairé par la sagesse et la solidarité. J'ai confiance dans la conscience du monde.
Ça ferait du bien.
C'est un beau message. Ouais.
C'est un beau message, une lueur d'optimisme malgré tout dans cette interminable
confiance du monde, c'est une belle formule, mais vous êtes un optimiste.
Merci à vous, professeur Denis Malvy, d'être intervenu ce soir sur Sud Radio, professeur de médecine, infectiologue au CHU de Bordeaux, membre du conseil scientifique. Ben justement, on va parler de ces restrictions qui sont la conséquence de la quatrième vague dans laquelle on est en ce moment. Est-ce que les Français vont s'y plier à ces nouvelles restrictions? Vous votez sur le Twitter de Sud Radio, vous nous appelez 0826 300 300. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio.
Baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry.
Les vraies voix Sud Radio avec ce débat qui a continué, figurez-vous, chers amis qui nous écoutez sur Sud Radio. Vous aimez beaucoup débattre d'ailleurs, Philippe Bilger.
Le dictateur soyeux. Hein.
Le dictateur soyeux, c'est moi ça?
Ouais,
c'est très gentil. Absolument. Soyeux, mais écoutez, c'est plutôt élégant en tout cas. Les vraies voix sont comme tous les Français qui écoutent Sud Radio, elles s'engueulent sur le pass sanitaire et sur le vaccin. Vous le saurez, vous qui nous écoutez sur Sud Radio, ça tombe très bien, il est 18h30, le débat est ouvert.
Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert.
Il y a une semaine, Emmanuel Macron annonçait la couleur à tous les Français qui prenaient la forme d'un serrage de vis assez sévère.
Partout, nous aurons la même démarche. Reconnaître le civisme et faire porter les restrictions sur les non-vaccinés plutôt que sur tous. Le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite, mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets. Là encore, seuls les vaccinés et les personnes testées négatives pourront accéder à ces lieux.
Alors ça commence, ces restrictions, par les cinémas et les lieux culturels de plus de 50 personnes dès ce mercredi. On verra ensuite si le Conseil d'État et le Parlement valident l'idée de filtrer avec un pass sanitaire les entrées dans les restaurants. Quoi qu'il en soit, ça a déclenché un tollé dans toute la France. On l'a dit, des centaines de milliers de manifestants, au moins 110 000 d'après la police dans toute la France ce week-end, qui étaient absolument foudrage. On écoute l'un de leurs meneurs, Francis Lalanne.
Hey, ce que nous sommes en train de subir en France, et au nom de cette concentration des pouvoirs, ils voudraient aujourd'hui obliger les Françaises et les Français à servir de cobayes pour une expérience médicale qu'ils veulent en plus faire financer par la sécurité sociale.
Ça, c'était le chanteur Francis Lalanne. Il n'était pas le seul, évidemment, à manifester. Ce week-end, un certain nombre de représentants politiques, dont Nicolas Dupont-Aignan, qui était invité du Grand Matin Sud Radio avec Philippe David aujourd'hui. Mais la colère était perspective, d'où la question qu'on vous pose, chers amis qui nous écoutez sur Sud Radio. Les Français vont-ils se plier à toutes ces restrictions? Vous votez sur le Twitter de Sud Radio, vous nous appelez 0826 300 300. Tout de suite, on en parle avec notre invité Jean Terlon. Bonsoir à vous.
Bonsoir à vous.
Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes, on vous connaît bien, on vous connaît même très bien sur Sud Radio et en particulier dans Les Vraies Voix. Vous êtes le vice-président de l'UMI, l'Union des métiers de l'industrie hôtelière, de la branche restauration. Vous êtes propriétaire par ailleurs d'un restaurant qui s'appelle Le Saint-Pierre, c'est à Longjumeau, dans l'Essonne. Les restrictions, ça vous concerne aussi. Est-ce que vous allez vous y plier vous-même ? Commençons par cela, Jean Terlon.
Alors commençons par ça.
Dans votre restaurant déjà, est-ce que vous allez réussir, est-ce que vous allez vous exécuter à filtrer les entrées dans votre restaurant ?
Je pense qu'en en réécoutant le président de la République que vous avez cité à l'instant, il a parlé de que les citoyens français se responsabilisent. Donc nous, on pense que notre métier, ce n'est pas de fliquer les clients, c'est de les accueillir avec le sourire. Et si les Français sont bien au courant que sans passe sanitaire, ils ne peuvent pas rentrer dans un restaurant, une salle de spectacle, un cinéma et ainsi de suite, je pense que c'est aux consommateurs de prendre la décision de ne pas venir plutôt que de nous mettre dans une situation de contrôle, sans compter que maintenant, il faudrait contrôler le pass et en plus une pièce d'identité. Donc, ce n'est pas notre boulot, ce n'est pas notre job.
Donc, vous refusez de le faire ?
Non, non.
Vous refusez de contrôler à l'entrée ?
On ne peut pas dire qu'on fait, on négocie, on discute et on explique la faisabilité des choses qui nous sont demandées. On a fait beaucoup de travail sur les protocoles sanitaires. On est des gens responsables. Il est hors de question d'être hors la loi. Simplement, il faut se prendre conscience que c'est quand même aux Français de se rendre compte que sans passe sanitaire, ils ne peuvent pas venir au restaurant à partir du mois d'août. Donc peut-être que des choses vont changer d'ici là. Il y a aussi le problème des salariés. Un salarié est aussi un citoyen, donc il va aussi avoir envie d'avoir un pass sanitaire pour aller lui-même au cinéma et dans les salles de spectacle, donc de vivre entre guillemets normalement. Donc s'il est vacciné…
Ça, c'est la théorie, elle est belle. Non, mais la théorie, pardon, Jean Terlon, je veux bien. Dans un monde idéal, tous les Français se prennent en main. Si tous les Français, effectivement, étaient prêts à suivre ce genre de conseil, il n'y aurait même pas de pass sanitaire, puisque tout le monde serait d'accord. Vous partez du principe que les Français et vos clients seront tous avec un pass sanitaire que vous aurez pas besoin de leur demander de le montrer. Ça ne va pas se passer comme ça.
Mais il a raison de le dire.
Ça aurait été bien de l'envisager comme ça. Je pense que la situation était beaucoup plus simple et pour le personnel qui travaille dans nos établissements et pour le bien de tout le monde. Donc, on est tous pour le pass sanitaire, on est tous pour la vaccination. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Simplement, on nous demande à nous d'appliquer ce que l'État ne peut pas appliquer directement. Donc, on aurait dit la vaccination est obligatoire et le pass sanitaire est obligatoire. Ça aurait beaucoup plus facilité les choses en termes juridiques parce qu'il va y avoir des problèmes juridiques au niveau du personnel parce qu'on ne peut pas mettre à pied les gens comme ça sous prétexte qu'ils n'ont pas un pass sanitaire. Et vous avez
suffisamment des salariés,
qui va sûrement, je pense, aller dans mon sens. Donc, il y a des règles à changer pour pouvoir appliquer ces choses-là.
Le pass sanitaire, oui, à condition qu'il soit beaucoup plus souple et que, en tout cas, ce ne soit pas vous et vos collègues, Jean Terlon, qui soient chargés de le faire respecter. Philippe Bilger.
Mais je trouve que Jean Terlon a totalement raison. Je veux dire, à partir du moment où le contrôle était censé être fait par les restaurateurs sur les clients et sur les salariés, et qu'il dit à juste titre que c'est impossible de le faire, eh bien, il ne peut compter sur la responsabilité des citoyens. Et après tout, ça n'est peut-être pas un pari tellement absurde.
Jean ?
Aujourd'hui, on a par exemple un collègue au Touquet, ce qui est une ville très importante, le Touquet. Il a fait des expériences, justement. Ça prend une minute pour contrôler un client avec le pass sanitaire et la carte d'identité. Donc, vous avez 80 clients, vous avez donc passé un grand temps à accueillir les clients. Je vous parle même pas des gens qui vont, comme lorsqu'on a mis en application le protocole sanitaire avec le port du masque dans les établissements, vous avez toujours des Français réfractaires, on est des Gaulois, hein, c'est toujours le même problème. Donc, il est difficile, on crée des relations, sauf si on avait les moyens d'avoir un vigile à chaque entrée de restaurant. Une personne dédiée uniquement à ça et qui, elle, sera respectée. Or, si c'est nous, chefs d'entreprise ou personnel, qui devons appliquer un flicage, parce que je ne sais même pas si légalement on peut demander les pièces d'identité aux clients. Ça, c'est pas, on n'est pas sermenté pour ça.
Vous savez donc, quoi, Jean Talon, je vous ai amené un juriste dans les vraies voix Sud Radio, Maxime Thiébaud.
Non, mais il y a des vraies questions. Alors, on ne va pas avoir l'avis du Conseil d'État parce que le gouvernement n'a pas le courage de le publier. Moi, j'attends avec impatience surtout la décision du Conseil constitutionnel qui, elle, sera publique. C'est vrai que ça pose des questions sur le service public et sur le rôle que vous avez parce que vous allez faire de la police administrative d'une certaine manière. Oui. Vous allez mettre fin à un trouble grave à l'ordre public par la présence d'une personne non vaccinée ou sans passeport dans votre établissement. Vous allez, et c'est ça le vrai drame. Alors, je n'ai pas suffisamment travaillé la question sur le plan de la jurisprudence, mais il est vrai que sur la question du contrôle du relevé d'identité, sur la question même de connaître le pass sanitaire, moi, ça me gêne. Alors, bon, si le Conseil constitutionnel veut le valider, il le validera et il n'aura pas de problème à le faire. La question qui est plus essentielle derrière tout cela, c'est de savoir si on n'a pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qui s'appelle celle de la liberté d'aller et venir, la liberté d'entreprendre, la liberté du travail aussi. Et je ne sais pas comment le Conseil constitutionnel va pouvoir valider ce pass sanitaire après une décision de mai 2021 qui avait été fort éloquente, dans laquelle elle avait dit que le pass sanitaire limité au grand rassemblement, ça passait, mais le pass sanitaire généralisé, il nous semblait quand même difficile. Beaucoup plus compliqué. Donc moi, attention de ne pas aller trop vite en besogne. Je crois en l'efficacité de l'état de droit et j'espère que le Conseil constitutionnel saura se démarquer. Surtout que l'avis du Conseil d'État, de ce qui sort pour le moment, c'est de nous dire en gros, le pass sanitaire pour les restaurants, pour les lieux de culture, le petit cinéma, pour les indépendants, pour les petits qui souffrent de tous les jours, il n'y aura pas de problème. Par contre, pour les grands centres commerciaux, il ne sera pas imposé. Et là, ça pose aussi une question sur la rupture du principe d'égalité. Donc, moi, je suis très méfiant et si j'ai vraiment une recommandation à vous faire, c'est surtout ne tombez pas dans le jeu d'être des flics au service d'une restriction liberticide.
Mais ils ne le peuvent pas, tout simplement, parce que quand on voit la pénurie qu'il y a dans ce secteur-là, en termes de personnel, dans la restauration, dans les bistrots, c'est vrai que on en cherche des bras. Alors, pour faire en plus la police à l'entrée du resto ou du café, je pense que ça va être juste impossible.
Ou alors, il faut des dédiés, comme disant dans les grands établissements.
Mais ça coûte cher, c'est
très compliqué. On va vous redonner la parole dans un instant, Jean Terlon, 0826 300 300. Sylvie nous appelle du Tarn. Bonsoir à vous, Sylvie.
Oui, bonsoir les Grosbois.
Bienvenue.
Bonsoir.
Sur Sud Radio, ma chère Sylvie, de ce magnifique département du Tarn. Est-ce que vous pensez que les Français vont s'y plier à ces restrictions qui sont annoncées, vous ?
Ils vont s'y plier maintenant. Pour les vacances, pour la période estivale. C'est juste parce qu'ils avaient prévu de partir en vacances, etc. Donc, ils vont s'y plier. Mais après, à partir du 15 août, c'est terminé. C'est terminé. Il n'y aura pratiquement plus personne. Et il suffira qu'il y ait des restaurateurs qui appliquent à la lettre ce que leur diront, ce que Macron a demandé, etc. Et puis, c'est terminé. L'économie va tomber. Parce que les gens, ils vont rester chez eux, ils vont aller faire leurs courses, ils vont se rassembler chez eux, se faire des petits repas chez eux, etc. Et puis c'est
ils l'ont fait pendant un an et c'était quand même particulièrement long, non, Sylvie ?
Oui, mais il ne faut pas oublier que là, ils auront eu la possibilité de s'oxygéner un petit peu pour ceux qui avaient prévu de partir en vacances.
Alors, revenons avec vous, Sylvie, d'ailleurs, dans le détail des restrictions qui sont annoncées. Passe sanitaire obligatoire à l'entrée d'un train grande ligne ou alors d'un TGV, par exemple. Ça veut dire, soit vous prouvez que vous avez été vacciné 2 doses depuis plus d'une semaine, soit vous avez fait un dépistage Covid, PCR ou antigénique il y a moins de 2 jours. Vous seriez prête ? Vous êtes vaccinée, par exemple ? Vous auriez envie de vous faire vacciner ou pas, Sylvie ?
Je ne suis pas vaccinée.
Oui.
Je ne me suis pas arrivée sur Doctolib.
Oui.
Et je ne me ferai pas vacciner.
Vous ne le ferez pas ? Vous avez essayé sur Doctolib et découragé par la queue, vous avez renoncé.
J'ai même pas été sur Doctolib. Bon, après, je vous dis honnêtement, moi j'en ai discuté avec mon médecin, voilà, il respecte mon avis. Voilà, je lui ai expliqué le pourquoi je ne me ferais pas vacciner. Donc, voilà.
Et alors, du coup, comment vous allez ? Imaginons, justement, si vous le permettez, Sylvie, imaginons que le pass sanitaire tel qu'il est annoncé entre en vigueur dans les semaines qui suivent. Comment vous ferez si jamais on vous le demande à l'entrée du resto, du cinéma, ou alors du train, ou de l'EHPAD, ou de l'hôpital, si vous allez voir quelqu'un ? Vous vous ferez dépister à chaque fois que ce sera nécessaire ?
Ben, écoutez, non, je ne me ferai pas plus dépister que ça, faut pas.
Et vous ne pourrez pas rentrer si jamais ça rentre en vigueur, par exemple. Du coup, vous allez vous priver ?
Me priver de quoi? Vous
mais
savez,
du restaurant. Imaginons que le restaurant, par exemple, le cinéma. Sylvie.
Là, pendant 18 mois, on a eu des couvre-feux, on a eu, on a eu un confinement, etc. Mais vous croyez quoi? Que je me suis arrêtée de vivre? Non. Moi, j'ai continué à vivre comme si de rien n'était. Par contre, j'ai respecté à la lettre tous les gestes barrières.
Vous avez respecté.
Et ça m'a empêché d'aller vivre, hein, même avec les couvre-feux, etc.
Vous avez fait attention, en tout cas. Merci beaucoup pour votre témoignage, Sylvie.
Et par contre, juste une précision.
Oui.
Donc, par rapport à Maxime, le Conseil d'État a validé le passe sanitaire.
Alors, c'est une partie du bruit qui sort en ce moment, qui n'est pas encore complètement
confirmé. J'aimerais bien lire l'avis, mais vous savez, le courage du gouvernement... Non, parce qu'on a des petits mots, des fois, dans les avis du Conseil d'État pour le Conseil constitutionnel. Donc, j'aimerais bien lire l'avis.
On suivra le dossier sur Sud Radio. Merci, Sylvie. On vous embrasse. Vous nous appeliez au 0826-300-300 depuis le Tarn. Jean Terlon, vous êtes toujours avec nous. Si je vous écoute, vous espérez encore que les mesures telles qu'elles soient annoncées par Emmanuel Macron n'arrivent pas, dans la mesure où vous ne seriez pas obligé de les faire respecter de force. Est-ce que vous pensez qu'on peut se diriger dans quelques semaines vers un scénario qui ferait qu'en fin de compte, le pass sanitaire annoncé n'est pas du tout celui qui va arriver, quoi, et qu'il n'y a pas grand-chose comme contrôle à l'arrivée?
Pour répondre, de toute façon, on respectera comme d'habitude les règles, puisqu'on est légaliste et qu'on respecte les règles dans lesquelles on les applique. Je voudrais juste soulever comme un gros problème, ce sont quand même les terrasses. Les terrasses ont été vendues comme un endroit absolument pas contaminant. On peut au minimum retirer les terrasses de cette contrainte. Pourquoi ? Parce que quand vous arrivez en terrasse, ce n'est pas comme dans un restaurant, les gens s'installent automatiquement et une fois qu'ils sont installés, il va falloir les contrôler assis. Donc, vous imaginez le travail du serveur qui, finalement, comme vous avez juste dit tout à l'heure, il y a un manque de personnel horrible dans ce métier actuellement à cause de tout ce qu'on a vécu. Et les terrasses, ils sont en plein air. À ce moment-là, il faut mettre un passe sur les plages aussi. Donc, il faut que les
c'est compliqué.
Il y a un minimum de choses à faire pour que ça soit le plus acceptable.
Si je comprends bien, le restaurateur et vice-président de l'UMI que vous êtes, Jean Terlon, l'UMI négocie ferme sur le degré, le degré d'application de ce pass sanitaire. Philippe Bilger, pétard mouillé ou pas ? C'est possible ? Ça peut finir en pétard mouillé ?
Ah, mais j'ai l'impression, à partir du moment où les restaurateurs constituent un front qui refuse de faire ce contrôle, et je crois qu'il y a une forte adhésion de la population qui comprend qu'ils ne sont pas destinés à faire des contrôles en même temps qu'ils sont chargés d'assurer la vie de leur établissement avec l'amabilité qu'ils ont en général. Non, je crois que ça peut être très dangereux pour le gouvernement, parce qu'encore une fois, il confie à une population très respectable des missions qu'elle ne peut sans doute pas assumer.
Benjamin Glaise.
Après, c'est la méthode Macron, quoi. Il balance justement ce pétard mouillé. Il annonce très très haut et puis il voit comment ça réagit. Il prend sa décision. Après, voilà, il teste un petit peu l'opinion publique et il va changer sans doute, comme il a déjà changé plein de fois. Mais là-dessus, c'est la méthode Macron, quoi, tout simplement.
Maxime.
Il a réussi son pari. Ils voulaient faire peur aux Français pour qu'ils aillent se faire vacciner, et ils se font vacciner.
Ce que je n'aime pas, mais en totale amitié de débatteurs, faire peur, inciter les Français à aller se faire vacciner, c'est bien.
Mais il y a une différence entre faire preuve de pédagogie
et leur dire faire peur.
Parce que les Français, moi, quand j'ai éteint ma télé le 12 juillet au soir, je me suis dit, si je ne suis pas vacciné, je ne pourrais plus rien faire, je ne pourrais plus vivre normalement. Donc les Français ont eu peur et sont allés sur votre
autobus. Et juste avant cette intervention, dans quel état d'esprit étiez-vous ? Vous n'étiez pas davantage vacciné après qu'avant ?
Non,
comment c'était avant ?
J'étais pas vacciné avant parce que je passais des examens, je voulais pas avoir les effets secondaires. Mais je m'attendais du président de la République à ce qu'il nous annonce la vaccination obligatoire pour les soignants, qui me semble en même temps être disproportionné, mais pour d'autres cas. Mais je ne pensais pas qu'il irait sur cette menace. Et là, je me suis dit, c'est pas un président de la République que j'ai en face de moi. C'est un homme qui n'assure pas l'unité nationale. Il met des Français les uns contre les autres. Il a fait une triple pression. Vous imaginez la pression terrible qu'il a fait ? Il a fait une pression familiale parce que votre famille vous regarde en vous disant « T'es pas vacciné, on va plus pouvoir rien faire, tu m'emmerdes, va te faire vacciner.
Bah, » C'était la fameuse publicité d'ailleurs la grand-mère qui a accueilli ses petits-enfants.
La pression du boulot parce que le patron il dit « Si t'es pas vacciné au 1er septembre, je te fous dehors. » Et puis la pression de la vie sociale, de la vie de tous les jours, si je ne suis pas vacciné, je ne peux plus rien faire. C'est, excusez-moi, une obligation vaccinale de fait qui est une menace.
C'est un coup de pression.
Et qui est contraire
pour vous, il est injustifié ou il est expliqué
à l'esprit même de notre pays, Benjamin, qui est celui de parler à des citoyens adultes.
Mais la volonté derrière est bienfaisante, Maxime.
Mais
pensez, Maxime, que des gens ont reproché ce discours au président en disant qu'il aurait été plus clair s'il avait interdit, s'il avait rendu la vaccination obligatoire.
Mais oui, mais c'est très bien que, ayant une autorisation de mise sur le marché conditionnelle, donc on est toujours dans des essais cliniques, on a un risque d'inconventionnalité de par la convention d'Oviedo de 2012, et le Conseil constitutionnel aurait certainement dit que ce n'est pas proportionné. Donc au lieu d'assumer un choix politique sur le plan juridique, il a préféré jouer la théorie de la menace. Et
très
je
efficace.
N'aime pas ça.
L'efficacité, vous n'aimez pas les menaces en tout cas.
Oui, parce que le problème, c'est que l'arme n'est pas celle de l'esprit républicain, n'est pas celle de notre pays, de celui des Lumières qui éclaire les gens.
En tout cas, c'est un jeu très dangereux s'il fait ça, parce qu'on a quand même des tensions qui sont énormes dans le pays, entre les Français, de division, vous en avez parlé, et surtout pour un président qui a été élu à la base en disant « je vais renouer la confiance des Français vis-à-vis de son personnel politique, de leur personnel politique ». Et là, on se retrouve justement avec un discours qui fait tout l'inverse, qui divise d'autant plus. Ça,
oui, mais Benjamin, d'accord, j'ai dit tout à l'heure, comme vous, que la société était déjà largement fracturée avant, mais vous raisonnez avec Maxime comme si en réalité le président était responsable de ce clivage qu'il est obligé d'assumer. Il le fait peut-être mal, je vous le concède, mais on ne peut pas le considérer comme coupable d'entreprise liberticide.
Jean Théalon, un des premiers objectifs, évidemment, de toutes ces batteries de mesures qu'on a subies depuis un an et demi, c'est de limiter les morts et l'encombrement des hôpitaux. Ça paraît évident face au coronavirus. L'autre impératif, c'est d'éviter que vous refermiez, vous et tous les restaurateurs. Est-ce qu'on en prend le chemin, Jean Théalon ?
Écoutez, je ne sais pas. Je suis restaurateur, comme vous avez dit. Je ne suis pas scientifique. Ouais. Je ne sais pas.
Est-ce que vous pourriez vous permettre de refermer ? Je vais vous reformuler la question.
Non, bien sûr, bien sûr que non. On n'était déjà pas prêt à refermer une deuxième fois.
Et vous l'avez fait.
On a appliqué la loi. Si vous voulez, si on vous interdit de travailler. Si je peux juste rajouter une chose qui a vraiment beaucoup plus que fâché les professionnels, c'est les 45 000 euros, les un an de prison. Ça a été super mal perçu.
C'était la sanction qui était annoncée pour les restaurateurs qui refuseraient de l'appliquer, ce passe.
J'espère que Bruno Le Maire va être entendu, qui a trouvé qu'il y a des mesures des sanctions qui peuvent être très excessives. Mais c'est vrai que quand on fait une annonce aussi violente, on a le sentiment d'être puni de quelque chose. C'est surtout ce sentiment-là, c'est-à-dire de personnes qui ne sont pas responsables dans nos métiers et qui ont fait n'importe quoi et qui n'ont pas respecté. À plus de 80%, les professionnels ont respecté les protocoles. Et cette somme, c'est comme un coup de massue. Quoi. Je veux dire,
vous avez eu l'impression de prendre pour les autres, en tout cas. Merci à vous, Jean Théalon. Merci à vous, Jean Théalon, d'être intervenu ce soir sur Sud Radio, vice-président de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Vous êtes vice-président de l'UMI pour la restauration. Et vous êtes par ailleurs propriétaire du restaurant Le Saint-Pierre à Longjument. On vous souhaite de rester ouvert le plus longtemps possible et jusqu'au bout. Cher Jean Théalon, on vous posait la question sur le Twitter de Sud Radio. Est-ce que les Français vont se plier à ces nouvelles restrictions? Pour l'instant, vous répondez non à 88% d'entre vous. Les amis, je vous propose de traverser la Manche dans un instant, place au clin d'œil des vraies voix, grâce le plat vous emmène en Angleterre. Vous allez voir, l'épidémie repart encore plus fort, mais c'est pas tout à fait la même ambiance. À tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry.
Les vraies voix sur Sud Radio, avec Maxime Thiébaud, Philippe Bilger et avec Benjamin Glaise. Grâce le plat, vous nous avez rejoints. Direction la Grande-Bretagne, ou si j'ose dire, Freedom is coming home ce soir, ma chère Grâce.
Oui, fini le masque dans les transports, dans la rue, fini le télétravail, fini la distanciation sociale. Aujourd'hui, c'est le Freedom Day, le jour de la liberté en Angleterre. Toutes les restrictions sont levées malgré une hausse du nombre de cas de plus de 50 000 par jour. Pour en parler avec nous, Fabienne. Bonjour Fabienne.
Bonjour.
Bienvenue sur Sud Radio.
Merci beaucoup.
Alors Fabienne, vous avez 44 ans, vous êtes traductrice et vous habitez à Birmingham. Cette nuit, à Birmingham, les Anglais ont fait la fête. C'était comment ?
Alors moi, personnellement, je n'y étais pas parce que je travaille et j'ai des enfants. Mais j'ai vu beaucoup de, de nightclubs qui ont réouvert avec aucune précaution, c'est-à-dire que tout le monde pouvait entrer, vacciné ou pas vacciné. Donc, ils ont eu l'air de bien s'amuser. Après, on verra comment ça évolue après.
Dans quel état d'esprit vous êtes alors que les scientifiques craignent un rebond de l'épidémie, notamment l'arrivée aussi de nouveaux variants? Vous, dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui?
Alors moi, je suis un peu désespérée. Je n'aime pas ce mot de Freedom Day parce qu'on a l'impression qu'on a été libérés, comme si c'était la guerre, alors que bon, ce sont des mesures sanitaires. Puis tout est relatif, la liberté, c'est pas pour tout le monde. Ma fille, par exemple, ce matin a été renvoyée de l'école parce qu'il y avait un cas Covid dans sa classe. Il faut savoir que l'école n'est pas encore terminée ici pour les enfants et que les enfants ne sont pas vaccinés, l'ouverture au vaccin n'est pas pour les moins de 18 ans. Moi, personnellement, je continue à porter le masque. Je suis sortie, beaucoup de gens continuent à le porter. Les supermarchés le recommandent. Mon coiffeur m'a envoyé un message comme quoi ils allaient continuer toutes les précautions. Donc, je pense qu'il y a vraiment deux états d'esprit. Il y a ceux qui vraiment se disent c'est la fête. J'ai l'impression que c'est les plus jeunes. Et puis, nous, moi, je suis pas allée en France depuis 2 ans. Je commence à être vraiment désespérée. J'ai pas vu mes parents. Donc, c'est dur, quoi.
Grâce.
Et est-ce que ça change vraiment quelque chose, du coup, dans votre quotidien à vous?
Alors, non, franchement, vraiment pas, parce que moi, je ne vais pas changer mes habitudes. Je vais continuer à faire comme avant. Mes enfants vont continuer à faire comme avant. Parce qu'on a 50 000 cas par jour. Les hospitalisations qui augmentent avec 60% des hospitalisés qui sont doublement vaccinés. Donc, il faut prendre énormément de précautions.
Oui. C'est justement le côté paradoxal de ces mesures décidées par Boris Johnson. Plus de restrictions en Grande-Bretagne à partir d'aujourd'hui, au moment même où il y a 4 fois plus de cas de coronavirus chaque jour en Grande-Bretagne. Merci à vous, Fabienne. Portez-vous
merci
bien.
Merci.
On vous souhaite de pouvoir revenir le plus vite possible en France. Hein. Vous voulez, mais je pense que ça vous fera du bien, le mal du pays quand même. Vous verrez, on mange très bien dans ce pays, ici en France. Ça vous fera du bien de revenir. Merci à vous. Merci Grâce Leplat. Et à nos 3 vraies voix du jour. Philippe Bilger, vous êtes presque en vacances. Là, il est déjà parti.
Il est déjà en vacances.
Il a déjà mis son masque. Il est prêt à monter dans le TGV. Merci Maxime Thiébaud. Je le rappelle, docteur en droit et auteur du livre Gilets jaunes vers une démocratie réelle. C'est publié chez VA Presse. Benjamin Glaise, on vous retrouve demain.
Merci à vous,
Jean-Marie. Philippe Bilger, à partir de 17h dans Les Vraies Voix. Restez sur Sud Radio. Tout de suite, vous retrouvez dans quelques instants, plutôt après les informations, l'ami Vincent Ferniaud qui vous emmène sur les routes de l'été direction le Var. Et en plus, il y fait beau.